Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour les petits amis, bonjour les copains. Comment ça va? Comment ça va-t-il aujourd'hui? Bienvenue, chers amis, bienvenue. Content de vous retrouver pour cette émission. Alors, on va pas faire les QAG, on va pas faire les QAG aujourd'hui, on va pas faire les QAG. On va pas faire les QAG parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai rendez-vous chez le dentiste. Oh, c'est nul le dentiste. Pourquoi on doit aller chez le dentiste? Ah oui, parce que sinon on a mal. C'est pour ça. Ils sont forts, ils sont forts. Ils sont forts les Gratchico. Hein. Quand on va pas les voir, ça nous fait mal, du coup on est obligé d'aller les voir. C'est un business, hein. C'est un business.
Bah ouais.
Bon, bah rendez-vous chez le dentiste. Hein. Bah ouais, faut bien y aller. Hein. Merci Elysis. Tu peux y aller en retard, ils sont jamais à l'heure. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Mais c'est parce qu'ils sauvent des vies. C'est pour ça. C'est un complot sûrement. Ouais. Je sais pas si c'est un complot, mais c'est un business rondement mené en tout cas. Moi, je reconnais le bon business. Moi, j'applaudis le business. Mon dentiste est toujours à l'heure, perso. Moi, le mien aussi, il est à l'heure. Hein. En général, il est à l'heure. Puis il est sympa en plus. Bon, alors, ça va. Hein. Le premier qui parle mal des dentistes va se faire ban sur 10 générations. Ah oui, il faut savoir que Perceval, qui est modérateur ici, est dentiste de profession. Enfin, de profession. Ça se trouve, c'est un amateur, hein, qui fait ça pour le plaisir. Merci beaucoup, Nidana. Merci pour ton resub. Est-ce qu'il te donne un bonbon à la fin? Non, il me donne pas de bonbon à la fin. Mais il est sympa. Tant que tu te fais pas arracher une dent. Oui, c'est vrai. Non, y a des dentistes. Merci, Dilasom. Merci beaucoup. Y a quoi comme magazine dans la salle d'attente de votre dentiste? Qu'est-ce qu'ils ont comme magazine, les dentistes? Moi, j'étais allé voir quoi comme médecin une fois? Je crois que c'était une dentiste. Hein. C'était une autre dentiste que j'étais allé voir. Et dans sa salle d'attente, les magazines, c'était Golf Magazine, Yacht Magazine. Genre vraiment. Et Paris Match. J'étais en mode, ah ouais, ah d'accord, ok. Ah bah je comprends du coup les dépassements d'honoraires, tout ça. Ouais, non, c'est vrai, je l'ai. Non, faut bien, non, c'est important. Faut bien financer. Paris Match de 1980, Le Point, magazine de déco, ouais, magazine de déco. Uniquement des magazines pour enfants, les adultes, ils ont leur smartphone. Oui, c'est vrai, remarque, t'as raison. Valeurs actuelles, Biba, Bonbon Mag, Bonbon Mag. Non, moi, mon dentiste, actuellement, il a rien dans sa salle d'attente. Non, il n'y a rien. J'ai mon téléphone, ça me va. Je crois qu'il a passé le cap des magazines. Il laisse tomber les magazines. Qui aime aller chez le dentiste ici? Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui aiment aller chez le dentiste? Moi, j'en ferai pas une passion. Oui, il y a Perceval, évidemment. Perceval, il adore. Il va tous les matins. Non. Moi? Ah ouais, toi, t'aimes bien aller chez le dentiste? Faut lui ramener l'humanité du jour. Je suis pas sûr que le dentiste y mettra l'humanité dans sa salle d'attente. Il a le sens de l'humour, mais pas à ce point-là. C'est une passion un peu coûteuse selon ce que l'on pratique. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai qu'il faut aller chez son dentiste une fois par an pour faire une visite de contrôle? C'est vrai ou c'est le lobby des dentistes qui a inventé ça? Ou alors on n'y va que quand on a mal? C'est quoi la bonne strat? Quand vous venez pas nous voir, on gagne plus d'argent quelques années plus tard quand vous douillez vos mères. Oui, c'est vrai, t'as raison. Tu confonds avec le contrôle technique. Ouais, c'est ça, je confonds avec le contrôle technique pour la bagnole. Faut prendre soin de sa bagnole. Les chicots, ça vient après. Ici, on dit même deux fois par an. Deux fois par an, tu feras un rendez-vous chez le dentiste pour un contrôle? J'en sais rien. Si ça se trouve, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Moi, je viens une fois par an. Moi, moi, j'y vais une fois que je me dis... Voilà, mais ça fait plus d'un an que j'y suis pas allé. Voilà, c'est à peu près ça mon ratio. Ce qui est une connerie, hein, du coup. Voilà, non, faut pas le faire, parce qu'après, ça fait mal. Et pourquoi pas se brosser les dents 3 fois par jour? Non, mais alors le coup du brossage de dents 3 fois par jour, c'est une légende, hein. C'est un truc qui a été inventé par l'industrie de la brosse à dents pour nous en vendre. Est-ce que le dentiste va chez le dentiste? Si c'est un dentiste très talentueux, il peut s'opérer face à son miroir, hein. Merci Creatix. Une fois par semaine, ça suffit le brossage de dents. Mais oui, largement. Avec le confinement, j'ai perdu un tiers de mon capital dentaire, j'ai plus une seule molaire d'origine. Ah ouais? Mais qu'est-ce que le confinement a à faire là-dedans? Qu'est-ce que t'as foutu de ton confinement? T'as mangé des branches? T'as mordillé des trucs? Qu'est-ce que t'as fait? Les dents sont confinées, ouais, c'est ça. Manger des briques. C'est comme la douche quotidienne vendue par l'industrie cosmétique. Mais oui, c'est comme la douche quotidienne, c'est n'importe quoi. La douche, c'est une fois par semaine. Quand t'as fini ton raid sur WoW. À peu près, à peu près. Perso, j'y suis pas allé pendant 2 ans. Bah, j'ai bien douillé avec mes 4 caries à combler. Courage. Moi, je rêve souvent de perdre toutes mes dents. Je dois aller chez le dentiste. Attends, il paraît qu'il y avait une raison à ça. Les gens qui font un cauchemar où ils perdent leurs dents, c'est dû à quoi déjà? Il y a une explication, il paraît. Mais je me souviens plus. Angoisse de mort. Ah, c'est peut-être l'angoisse de mort, ouais. La peur de l'impuissance. Il y a d'autres types de cauchemars où tu as peur de l'impuissance, les cauchemars où tu n'arrives pas à bouger. Vous savez, les cauchemars où vos jambes, elles sont en coton, là, où tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives pas à courir alors que tu es poursuivi, etc. Ça, il paraît que c'est dû au fait que ton cerveau, c'est une phase de sommeil paradoxal où ton cerveau est actif et ton cerveau, il envoie des signaux à tes jambes pour les faire fonctionner, mais comme ton corps est endormi, les signaux ne marchent pas. Et du coup, le cerveau, il interprète ça par les jambes marchent pas. Ce qui est factuellement vrai, puisque tu es en train de dormir. Les jambes ne fonctionnent pas. Donc, dans ton rêve, ton cerveau, il t'envoie des alertes en disant au secours, il y a un problème, les jambes, elles ne marchent pas. Voilà. Moi, je fais des cauchemars où je me bats avec des gens, sauf que j'ai aucune force. Moi, je crois qu'une fois, j'ai fait un cauchemar, c'était il y a longtemps, c'est il y a plusieurs années. J'ai fait un cauchemar où je streamais, mais le chat, il était vide. Genre, il y avait son père. Genre, je parlais tout seul et les gens, ils réagissaient pas. Genre, les gens, ils s'en foutaient, tu vois, de ce que je disais. Venez, on fait ça. Venez, on arrête tous de taper dans le chat. Chacun ses angoisses. Ouais, non, c'est particulier comme angoisse. Vous êtes trop con. Moi, j'ai rêvé que je votais à droite. Ah, dur. Il y avait des spectateurs, mais personne parlait. Ouais, il y avait des spectateurs, mais les gens, ils trouvaient que ce que je disais, on s'en branle. Ça sert à rien de discuter. Il n'y a rien à discuter de toute façon. En même temps, le premier stream, il devait pas y avoir foule. Oh, mon premier stream, c'était en l'an de grâce 2015, après Jésus-Christ, et j'avais 4 viewers, dont 2 que je connaissais. Et ça parlait pas beaucoup dans le chat. Mes premières années de stream, personne parlait dans le chat, hein. Il y avait pas vraiment de chat. Enfin, si, il y avait t'as toujours un mec ou deux pour discutailler, tu vois. Mais. J'ai mis genre 5 ans avant de parler dans les chats. Oui, mais c'est normal. L'écrasante majorité des viewers ne parlent pas dans le chat. C'est normal. Ça fonctionne comme ça. Heureusement que Flight Simulator a lancé ta carrière. Ah non, Flight Simulator, le premier stream Flight Simulator que j'ai fait, bah c'était après Acropolis. Merci Simon, merci pour ton raid. Bonjour les viewers et les viewers de Simon Puech. Installez-vous confortablement, pensez à follow évidemment si c'est pas déjà fait. Enfin voyons, j'étais en train de raconter mes débuts sur Twitch. J'étais en train de raconter mes débuts sur Twitch en 2015 après Jésus-Christ. Merci Sadlig pour ton sub. Et qu'est-ce que je voulais dire? Non, ouais, j'ai commencé à faire des streams Flight Simulator assez récemment. Enfin, assez récemment. Ouais, genre 2020, je crois, ça devait être le confinement. Hein. La guerre, pardon, c'était la guerre, c'était la guerre. Macron, il a dit c'est la guerre. Donc pendant la guerre, j'ai fait du stream jeu vidéo. Après, j'ai fait pas mal de stream jeu vidéo. C'est pas tout à fait vrai, mais j'ai participé à la ZLAN à deux ou trois reprises. Je le ferai pas cette année d'ailleurs. Hein. Je serai pas à la ZLAN cette année. Je connais aucun des jeux auxquels on joue à la ZLAN. On a encore des acouphènes suite à Manhattan Kaboul. Bah, Manhattan Kaboul, c'était au The Event. C'était le deuxième The Event auquel j'ai participé. Je sais plus quelle année c'était, 2021? 2020? 2021? Non, c'était 2020, c'était mon premier. Ça devait être 2021, ouais. Street Fighter, tu connais? Ah, il y a Street Fighter à la ZLAN cette année? Ouais, je connais, ouais. Ouais, je suis très fort. C'est faux. C'est faux. Usul, il est fort. Usul, il est fort au jeu de versus, mais moi non. Satisfactory aussi. Il y a une épreuve Satisfactory. Putain, j'ai même pas regardé les jeux à la ZLAN. Je vous avoue, j'ai même pas suivi les jeux à la ZLAN cette année. Satisfactory, mais ce sera quoi le but? C'est quoi ce DOS Manhattan Kaboul? Alors pour ceux qui n'étaient pas là, au The Event, on avait fait un vol sur Flight Simulator, Manhattan, Kaboul, en écoutant en boucle la chanson Manhattan, Kaboul. Il y en avait pour 11 heures de vol, je crois. Un truc comme ça. Et on n'écoutait pas n'importe quel Manhattan, Kaboul, on écoutait la version karaoké de MV et Zerator. Non, c'était bien. Non, non, c'était bien, c'était bien. L'année suivante, on a fait Montpellier-Moscou en écoutant la chanson Moscow en boucle, sans s'arrêter. C'était pénible, hein. Ça doit être interdit quelque part dans la Convention de Genève. Ouais, on avait fait Manhattan Kaboul, c'était drôle. Qu'est-ce qu'on avait rigolé? Et on écoutait la version Moscow. Oui, on écoutait Moscow, la version karaoké d'Antoine Daniel, ouais. Et Antoine Daniel était venu chanter sur mon stream. Je suis allé au bout de la vidéo Gandalf Sax 10 heures en écrivant un scénar. Putain, la vache. Oh, c'est dur. Ah, oh, c'est dur. Non, mais on en a fait des conneries en stream. En même temps, je stream tous les jours depuis 11 ans. Alors, on a eu le temps d'en faire des conneries. Hein. On a eu le temps d'en raconter des conneries. On a raconté beaucoup de conneries quand même. Hein. Il y en a qui étaient là au tout début. Il y en a qui se souviennent du tout début. Quand on faisait les questions au gouvernement, du gouvernement Manuel Valls. Et Bernard Cazeneuve aussi, on a fait Bernard Cazeneuve. Ouais. Tard l'époque, ça s'appelait Acropolis. Ça s'appelait Acropolis, ouais. J'ai des souvenirs de la fin de la 16e législature. C'était laquelle, la 16e législature? Parce qu'après, on a fait la présidentielle 2017. Avant Macron président. Ouais, c'est ça, c'était la législature des socialistes. Ouais. Je suis un bébé, j'ai pas connu tout ça. Ah là là. C'était il y a combien d'années, Acro? Acropolis, ça. En fait, la première chaîne que j'ai lancée, elle s'appelait La Vie Publique en 2015. Je l'ai renommée Acropolis en 2016, fin 2016. Je l'ai renommée Acropolis en 2016 et ensuite Acropolis, c'est devenu Jean Massier. En quelle année, tu te souviens, Perceval? On a fait le switch, c'était 2019, je crois. C'était avant la guerre. C'était avant la guerre. La guerre du Covid. Savais même pas que Twitch existait il y a 10 ans. Twitch existe depuis 15 ans maintenant. Sous sa forme actuelle, encore avant, c'était Justin TV. Mais ça fait 15 ans, ouais, que ça existe, Twitch. J'étais abonné à des Canadiens sur Justin TV à l'époque. Ah ouais, non, Justin TV, ça date, hein. Pareil, j'ai découvert Twitch pendant le Covid. Il y a plein de gens qui ont découvert Twitch pendant le Covid. Bah, rappelez-vous, pendant le Covid, ça a été la grande diversification de Twitch. Ça a été le moment où tu as Samuel Etienne qui s'est lancé, par exemple. Eclipsia sur Hitbox, l'époque où tu pouvais croiser un tricératope à la boulangerie. Ouais, bah les premières années de Twitch, à l'époque, c'était la grande époque des web TV. Il y avait des web TV sur Twitch. Aujourd'hui, ça a quasiment disparu, à quelques rares exceptions, notamment du côté de l'e-sport. Je sais même pas si Solary a toujours sa web TV. Ça existe toujours, Solary TV, avec une prog, etc. Mais avant ça, il y avait O-Gaming, il y avait Eclipsia, il y avait Gaming Live. Il y avait le stream, évidemment. Il y avait le live, mais ça, on a préféré oublier. Millennium, Millennium, bien sûr, Millennium, évidemment, vous avez raison, Millennium. Non, c'est des streams indépendants maintenant chez Solary. Ouais, ils sont passés au stream indé. Non, mais ça a complètement disparu, les web TV. Je crois que la seule qui reste, c'est OTP, mais OTP, c'est pas vraiment une web TV. C'est une chaîne e-sport, donc qui suit des compétitions, des matchs, etc. C'est un peu différent des web TV. Merci, Matcha Malice. Solary, ils ont arrêté la web TV parce qu'ils ont perdu le contrat pub avec Twitch. Ça m'étonne pas. Twitch, ils font plus de contrat pub. Hein. Je crois pas. Hein. En tout cas, pour des web TV, c'est terminé. Hein. C'est pas du tout un modèle qui a fonctionné. Et donc, moi, je me lance sur Twitch à cette époque-là. Et je me lance sur Twitch avec l'ambition de créer une chaîne, une web TV. Moi, je voulais pas créer une chaîne Twitch. Je voulais créer une web TV. Et mon idée, c'était qu'on ait une programmation sur toute la semaine. En fait, je voulais faire la chaîne parlementaire sur Internet, mais la chaîne parlementaire version cool, tu vois. Et donc, j'ai recruté des gens, on a créé des émissions, on a essayé de lancer des projets, on a essayé de lancer des émissions plus ambitieuses. La chaîne a grimpé. Le problème, c'est qu'il n'y avait absolument aucun modèle économique. Vraiment. C'est pour la même raison, d'ailleurs, que les autres web TV se sont cassés la gueule hein, sur Twitch. C'est qu'en fait, c'est très, 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 très cher à faire fonctionner une web TV et que ce qui fonctionne sur web TV, ce qui fonctionne sur Twitch, c'est les chaînes incarnées. C'est un visage, un nom, une personne face cam. C'est ça qui fonctionne le mieux. Un pseudo ou un nom, voilà. C'est quoi ta porte d'entrée sur Twitch? SC2 et O-Gaming? Non, c'était moi, ma porte d'entrée à moi, ça a été Zerator. Ma porte d'entrée à moi, ça a été Zerator que je regardais tous les jours. J'adorais son contenu, j'adorais sa chaîne, j'adorais son ton, son humour. Je l'ai suivi, Zerator, quand il est parti chez Eclipsia. Du coup, j'ai regardé Eclipsia. J'ai trouvé ça trop cool. Du coup, j'ai découvert d'autres personnes, d'autres jeux, d'autres machins et tout. Enfin, bref. Toi aussi, tu incarnes une figure rassurante sur Twitch. Moi, je rassure, moi! Moi, je. Moi, je suis rassurant sur Twitch? Mais non. T'avais aussi fait des trucs dans la sphère au gaming ou c'est un faux souvenir? Non, alors, j'avais pas fait des trucs en live sur au gaming, même si je suis apparu dans des émissions de gaming SC2. Et d'ailleurs, je suis toujours pote avec la bande de la CBTV. D'ailleurs, ils m'ont invité. La semaine dernière, j'étais sur un live de la CBTV, qui est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une web TV spécialiste du jeu StarCraft 2, du jeu compétitif StarCraft 2. C'est aussi une chaîne e-sport, hein, d'ailleurs. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et par contre, enfin, les locaux d'Acropolis étaient dans les locaux de gaming. J'ai été hébergé par OGaming pendant 2 ans, 3 ans. Je suis très peu Twitch, mais tu es un de ceux que je regarde le plus. Eh ben, ça fait plaisir. Ben, ça fait bien plaisir. Bienvenue. Donc, un feat tue des Jean Massier, c'est possible? Il y a un feat qui existe de tue des mois au moment du vote de la loi République numérique pour expliquer les tenants et les aboutissants sur l'e-sport. Je crois que j'avais été interviewé par Tude. Je sais plus. Mais on avait fait un truc avec Tude, ouais. On avait fait un truc avec Tude. Ça doit exister quelque part dans les archives de gaming à l'époque. Sur Twitch, ça fait un moment que je regarde plus rien d'autre que la revue de presse de Samuel Etienne et ce stream. Ah ouais, t'as arrêté de regarder les autres? Bah, y a plein d'autres trucs sur Twitch maintenant. Enfin, je dis maintenant, pas plus qu'avant, mais il y a beaucoup de monde sur Twitch. Merci Sowen. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'au final, il y a assez de chaînes politiques actuelles. Ça a l'air d'être beaucoup plus jeux vidéo. Bah, Twitch reste une plateforme de jeux vidéo, hein, ça reste le jeu vidéo qui drive la plateforme Twitch, et de très très loin. Par contre, c'est marrant que tu dises qu'il y a pas beaucoup de politique, parce que moi, il faut vous rendre compte à quel point je me suis senti seul sur Twitch pendant des années. En gros, de 2015 jusqu'au Covid, j'étais le seul. Mais vraiment, j'étais le seul. J'étais le seul streamer français à faire autre chose que du jeu vidéo. Je parle même pas de politique, hein. T'avais pas été ban d'ailleurs? Si, si, j'ai été ban de Twitch en 2015 quand je me suis lancé. Twitch m'a banni parce qu'à l'époque, il était interdit de faire autre chose que du jeu vidéo sur Twitch. C'était vraiment une plateforme de gaming, il y avait que du gaming et rien d'autre. D'ailleurs, à l'époque, il n'y avait pas encore les catégories. Elles sont arrivées en 2017. Les catégories Just Chatting, Talk Show et Podcast, Créative, Musique, etc., etc. Hugo Décrypte, il faisait pas quelques lives vite fait? Si, Hugo Décrypte, il a lancé une émission sur Twitch qui s'appelait Mashup, mais ça n'a duré qu'un an. C'était en 2023, je crois. T'as été hors la loi sur Twitch? Bah ouais, j'ai été banni de Twitch. J'ai été banni de Twitch pendant un an et demi, ouais. Presque 2 ans. Merci Agathe. Merci beaucoup. T'en avais parlé pendant le The Event. Oui, sûrement. Oui, sûrement. C'est énorme un an et demi. Ouais, c'est énorme un an et demi. Donc du coup, à l'époque, c'était La Vie Publique et Acropolis. On a été réfugiés climatiques sur YouTube. On a streamé sur YouTube. Et streamer sur YouTube à une époque où les streams sur YouTube, ça n'existait pas. Mais genre pas du tout. Enfin, vraiment, à l'époque, personne streamait sur YouTube. La plateforme de streaming, c'était Twitch, point barre. Aujourd'hui, ça a changé, parce que je crois qu'il y a de plus en plus de streams sur YouTube, plus en plus de gens qui lancent des trucs et tout, machin. Tant mieux pour eux. Au début de Twitch, il n'y avait pas le droit de laisser une chaise vide, par exemple. Ouais, non, Twitch, ils étaient très très stricts à l'époque. Même, je crois que les streamers qui passaient trop de temps à discuter avec leur chat sans jouer aux jeux vidéo, ils étaient rappelés à l'ordre par Twitch. Il y avait des règles à l'époque, non, c'était vénère, hein. Twitch essayait de faire la chasse aux contenus pirates, aux gens qui utilisaient la plateforme pour faire autre chose. Des gens qui utilisaient la plateforme pour faire du sexe. Il y en a eu aussi aux États-Unis. 2013, 2014, un truc comme ça, au moment du rachat par Amazon. Et comment t'es revenu chez Twitch? Bah, en fait, quand j'ai été banni de Twitch, j'ai récupéré, grâce à Zerator d'ailleurs, un numéro de téléphone d'un responsable de Twitch. Je l'ai appelé, je lui ai expliqué ce que je faisais, je lui ai expliqué mon problème, et il m'a répondu, c'est trop de la balle ce que tu fais. Franchement, ça a trop de sens, c'est trop cool. Par contre, désolé, on a des règles, et juste, c'est pas possible en fait. On peut pas te laisser streamer sur Twitch, c'est pour le jeu vidéo, machin et tout. Et 2 ans plus tard, en janvier, je crois, 2017, Twitch a sorti un communiqué de presse pour annoncer la diversification des contenus sur Twitch en disant voilà, à partir de maintenant sur Twitch, il y a de nouvelles catégories, Just Chatting, podcast, cuisine, machin, trucs manuels. Enfin, en gros, tous ceux qui veulent streamer peuvent streamer sur Twitch. C'est plus, on fait plus seulement du jeu vidéo, quoi. Et du coup, j'ai rappelé mon contact chez Twitch. Je lui ai dit, hey, salut, tu te souviens de moi? Il m'a dit, ouais, je me souviens de toi. Vas-y, reviens sur Twitch si tu veux, il n'y a pas de souci. Tu peux passer partner d'ailleurs. Donc, je suis passé partner à ce moment-là. Et voilà. Et Acropolis était de retour sur Twitch. T'es passé partner instant? Oui, à l'époque c'était différent. À l'époque ça marchait pas pareil le partnership. À quand le retour de la chaîne La Vie Publique? Jamais. Jamais pour votre bien. T'as fait quoi entre 2015 et 2017? Bah, j'ai streamé sur YouTube. J'ai continué ma chaîne, mais sur YouTube. Enfin, on a continué, parce que on était plusieurs. On a continué sur YouTube. Ça payait mal YouTube en live. C'était quoi le modèle économique à cette époque sur YouTube? Il n'y avait pas de modèle économique. Il n'y avait pas de modèle économique sur YouTube. On avait des dons. Vous vous souvenez l'époque où il y avait des dons, etc., machin, qui s'affichaient. Aujourd'hui, maintenant, regardez, on a grâce à vous le financement de Baxit avec une barre qui progresse. Mais à l'époque, il y avait les gens, ça se pratiquait beaucoup plus sur Twitch à l'époque qu'aujourd'hui, où il y avait un lien avec des dons. Et les gens pouvaient faire un don sur PayPal et ça affichait ton pseudo. Et voilà. Merci Neros. On veut la Web TV Backseat. La Web TV Backseat, je suis désolé. Le modèle économique est impossible. Déjà que Backseat est une émission qui est très difficile à financer. Et ce n'est qu'une émission. Vous imaginez Web TV entière, trouver le pognon? Je ne sais pas où on va le trouver, hein. Le business model me paraît très aventureux. Merci Pizzo20. Et malgré ton ban, t'as préféré quitter la chaîne YouTube? Oui, bien sûr, parce que moi, ce que je voulais, c'était streamer sur Twitch. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Twitch. C'était sur Twitch que je voulais streamer, c'était pas sur YouTube. Encore une fois, je vous le redis, YouTube n'est pas une plateforme de streaming. Merci Cocox. Personne ne va sur YouTube pour regarder des streams. Alors c'est moins vrai aujourd'hui parce que YouTube a mis un petit peu la seconde sur les streams. Il y a de plus en plus de lives sur YouTube, etc. Je ne sais pas si ça va concurrencer un jour Twitch, je ne sais pas. Est-ce qu'une web TV serait soumise à la réglementation sur les temps de parole? Non. Passer d'une émission hebdomadaire à plusieurs émissions quotidiennes. Non mais voilà, enfin tu vois. Bon, voilà, moi je suis extrêmement heureux de produire et de coproduire Backseat. J'espère que cette émission vous plaît. On va continuer à la faire, mais on va continuer à la faire tant qu'on aura de l'argent pour la faire. Et cet argent, il vient de vous. Merci pour vos dons. Point d'exclamation Ulule dans le chat. Pour participer au financement de Backseat et nous permettre d'aller jusqu'au bout de la saison, de cette saison-là, pour faire des émissions en juin. Est-ce que ce serait possible une web TV avec plein de streamers politiques, culture, avec Lumac, Lemovitch, Backseat, etc. Trop cher. Trop cher. Vraiment, c'est pas parce que c'est souhaitable que c'est réalisable. Acropolis est mort pour de très bonnes raisons. C'est qu'il n'existe pas de modèle économique pour une chaîne, une web TV d'actu politique sur Internet. C'est horriblement cher à financer. Acropolis vit encore dans le cœur de certains. Oui, je sais, je sais. Mais non, mais Acropolis, c'était trop bien. Enfin, c'était évidemment que c'était trop bien. Le concept, c'est normal, c'est moi qui l'ai inventé. Je peux vous dire le contraire. Le concept était très bien. On fait une chaîne parlementaire pour les jeunes. On fait une chaîne parlementaire sur Internet. Pour Internet. Avec les codes d'Internet. On habite Internet. C'est notre maison. C'est là qu'on est. C'est la culture web. C'est... Enfin, voilà, on fait une chaîne... avec plein de visages, avec plein d'émissions, on fait une programmation sur la semaine, des émissions sur l'Europe, des émissions sur les collectivités locales, des émissions sur la culture, des émissions sur l'éducation, des émissions sur le Parlement, des émissions sur... Oui, c'est trop bien. Sur le papier, ça a trop de la gueule. À financer, c'est impossible. À financer, c'est juste impossible, quoi. J'ai aucune idée du prix que ça peut coûter, ce genre d'émission, et le nombre de personnes qui gravitent autour pour que tout fonctionne au poil. Tu parles de Backseat ? Backseat, c'est une émission qui fonctionne avec une quinzaine de personnes qui travaillent à la production de l'émission, que ce soit la partie éditoriale, en gros ce que vous voyez devant la caméra, les chroniqueurs, ce qu'on raconte, la préparation de l'émission, etc., la programmation, et aussi d'un point de vue technique. Donc les techniciens, ingé son, ingé lumière, réalisateurs, truquistes, toutes les personnes en régie qui font tourner l'émission. Donc c'est une quinzaine de personnes qui interviennent à des degrés divers et variés dans la fabrication des émissions Backseat. Que fait le CNC ? Le CNC, ils ont décidé d'exclure les émissions politiques. Parce que c'est pas de la création, tu comprends, c'est pas de l'art. C'est le CNC, hein, c'est des cultureux, ils viennent du cinéma. Ils ont une vision très, très ésotérique de la notion de création. Dommage que les tentatives genre de France TV qui arrivent sur Internet n'aient pas pu faire ça avec toi, par exemple. Bah ouais, mais vous savez, les médias traditionnels qui se lancent sur Twitch, il faut bien se rendre compte que c'est à fond perdu. Il n'y a pas de modèle économique sur Twitch pour eux. Il n'y a rien à gagner, en fait, à être sur Twitch. À part faire une mission de service public ou aller chercher un public particulier, etc. Mais il n'y a rien qui leur permet de rentrer dans leurs frais. Le famoso France TV Slash et la Convention pour le climat. Ouais, c'était en partenariat avec France TV Slash qu'on a couvert la Convention citoyenne pour le climat. Et à l'époque, on a été très très peu payé par France TV Slash parce que de toute façon, ils n'avaient pas de fric. Hein. Ils n'avaient pas de fric à mettre là-dedans. Et donc, c'est en partie ce qui a coulé Acropolis d'ailleurs. On va pas se mentir. La Convention citoyenne, ça a un peu signé la fin d'Acropolis. France TV Slash, ça va pas disparaître. En tout cas, le rapport de Charles Alloncle propose la disparition de France TV Slash. La suppression pure et simple de France TV Slash, de France 4. Alors, il propose aussi la suppression de la Radio Move. Sauf que pour ceux qui n'ont pas suivi, la Radio Move, elle n'existe déjà plus. Je crois que ça fait 6 mois. Peut-être un peu plus même, d'ailleurs, que la Radio Move n'existe plus. Ça a donné quoi le vote du rapport hier ? Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, le rapport de l'infameuse commission d'enquête pour la destruction de l'audiovisuel public a été adopté par les députés. C'est passé à une seule voix. Les macronistes se sont abstenus pour la plupart d'entre eux. le président Jérémy Patrilletus a voté pour la publication du rapport d'extrême droite. Toute la gauche a voté contre. Et c'est passé à une ou deux voix près. Ouais, deux voix peut-être. Donc le rapport sera publié la semaine prochaine. Quel cirque cette commission du début à la fin? Ah bah, c'est une commission qui a rempli son office, hein, affaiblir l'audiovisuel public. C'était le but de la commission, elle a réussi. Et je vous invite à suivre de près les annonces budgétaires au printemps, à l'automne prochain. Vous allez voir comme par hasard une réduction du budget de France Télévisions, conformément aux annonces du rapport de la commission d'enquête. Publié égale adopté. Il n'y a pas de différence entre les deux. La commission d'enquête a voté pour le rapport. Il sera donc publié. Voilà. S'ils avaient voté contre, il n'aurait pas été publié. T'as écouté l'interview du président de la commission sur France Inter ce matin? Ouais, je l'ai écouté. J'ai écouté Jérémy Patrilletus qui a passé beaucoup de temps à critiquer le rapporteur, Charles Alloncle, son rapport pour lequel il a pourtant voté. Jérémy Patrilletus est un homme courageux qui fait barrage de son corps à l'extrême droite en votant en faveur des travaux de l'extrême droite. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Il y a un article de Libé justement sur Charles Alloncle, la révélation de cette année politique quand même. Charles Alloncle, la révélation, nouveau député, désormais bien connu des Français, le rapporteur de cette commission d'enquête qui est devenu une véritable star de l'extrême droite. Il va falloir compter à l'avenir avec ce Pokémon qui a, semble-t-il, un avenir radieux qui lui tend les bras. Le député UDR de l'Hérault aura réussi, par ses outrances et un soutien en béton à la sphère Bolloré, à émerger dans l'écosystème d'extrême droite, au point d'envisager de prendre la succession d'Éric Ciotti à l'Assemblée. Ah ouais, carrément. C'est devenu le poulain qui va récupérer l'UDR. Ah bah oui, parce qu'Éric Ciotti... Je suis en train de percuter, mais Éric Ciotti, il a été élu maire de Nice. Donc il a démissionné de son poste de député. Donc, le siège de président du groupe UDR est vacant. Ah, c'est pas mal, hein. Peut-être que Charles Alloncle va devenir le nouveau président de l'UDR à l'Assemblée nationale. On peut trouver pas mal de poux dans la tonsure de Vincent Bolloré et de son empire politico-médiatique, mais on ne peut pas leur reprocher de mégoter quand ils ont décidé de propulser une personnalité sous les feux de la rampe. Cet automne, la mise sur orbite de Sarah Knafo, que l'industriel apprécie beaucoup, n'a échappé à personne. Quitte à faire grincer les dents des dents Jordan Bardella, vexé de se faire shipper la une du JD News la semaine de la sortie de son second livre, Ce que veulent les Français. Depuis quelques semaines, ce sont les yeux bleus et la raie de côté de Charles Alloncle qui s'étalent en tête des gondoles bolloréennes et de leurs satellites. À 32 ans, le député ciotiste de l'Union des droites pour la République, rapporteur de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, y est servi plus souvent qu'à son tour. L'homme qui valait 4 milliards, clignote le JD News le 4 février. Le rapport interdit interroge le même hebdomadaire le 21 avril. Premier à se coucher devant le milliardaire, Pascal Pro déverse dans le JDD du 12 avril ses 10 tirambes sur la tête d'Alloncle, seul contre tous, un profil différent qui avance la pensée claire et le verbe ordonné, intelligent et intelligible. À la une de l'incorrect, Alloncle sera même comparé à Émile Zola. Oui, parce que bon, quand il y a de la honte, il n'y a pas de plaisir. Posant sous la célèbre interpellation « J'accuse ». Sinistre inconnu au début de ses travaux, le 28 octobre 2025, Alloncle est désormais accosté dans la rue comme il s'en ouvre dans les échos et son compte X vient de dépasser 80 000 abonnés. Seul contre tous, c'était aussi le titre du documentaire de la chaîne CNews qui lui ont consacré le 17 avril en prime time. Le film est produit par Guillaume Janton, ancien animateur de l'émission de Cyril Hanouna sur C8 et intime de Jordan Bardella, aux côtés duquel on le voit apparaître en short de bain sur une plage à Pamplonne, en une de Closer, l'été dernier. C'était déjà Janton qui avait frotté de sa manche les souliers de son copain RN pour le groupe Bolloré dans un long format « Un an avec Jordan Bardella », diffusé en février 2025. J'admets ne pas avoir vu les travaux documentaires de ce monsieur Janton. Ancien chef de file des jeunes avec Sarkozy lors de la primaire de 2016, Alloncle a fait un tour par le monde de la start-up en devenant courant 2020 directeur des opérations de Blank, une néobanque pour indépendants soutenue par le Crédit Agricole. C'est Bardella lui-même qui le ramène à ses premiers amours. Après l'avoir croisé à un dîner de jeunes entrepreneurs en 2023, le patron du RN le convainc de s'engager au sein de l'UDR ciotiste au moment de la dissolution. Alloncle déploie son parachute au-dessus de la 9e circonscription de l'Hérault, gomme le Henri de son prénom, composé, qui le renvoie beaucoup trop à son statut de fils de préfet ayant grandi à Versailles, et fait sa scolarité dans un privé catho, passé ensuite par Sciences Po et HEC, et se débrouille donc pour devenir l'un des très proches de Ciotti, qui pourrait lui donner bientôt la présidence du petit groupe UDR que le Niçois est contraint de lâcher depuis son installation à la mairie. Donc Charles Alloncle, il vient des jeunes avec Sarkozy. Ça a été ça, sa formation. Il est passé par la Startup Nation. Et c'est Jordan Bardella qui l'a convaincu de s'engager à l'UDR. Ce qui veut dire que Charles Alloncle n'était pas encore à l'UDR avant la dissolution. On est sur du double parachutage. C'est un nouveau dans le parti. En même temps, UDR n'existait pas vraiment au moment de la dissolution. Oui, en fait, c'est débile ce que je dis, parce que l'UDR a été formé à ce moment-là. Il a réussi à se positionner comme l'une des principales figures de l'UDR derrière Éric Ciotti. Il a réussi à faire travailler autour de lui l'écosystème de son camp et, en même temps, à essuyer par son travail les attaques de la gauche, ce qui est toujours positif pour créer une séquence. Se réjouit Stanislas Rigaud, un ancien cadre de Reconquête devenu communicant à la tête de Nexus, une petite structure financée par le milliardaire Pierre-Édouard Sterrin. Merci beaucoup, Érudin, pour ton resub. Le député apparaît comme le principal gagnant d'une séquence de plusieurs mois qui aura éclaboussé pas mal de monde et suscité de nombreuses polémiques. C'est la commission de Charles-Henri Alloncle, s'est agacé l'animateur Nagui après son audition tendue début avril. Pas sûr, tant l'affaire ressemble à une coproduction entre toutes les extrêmes droites. RN, avec la présence dans cette commission de la députée Caroline Parmentier, elle-même ancienne journaliste dans le canard d'extrême droite tradit présent. Identité Liberté, le parti de Marion Maréchal, avec la députée Anne Sicard, issue du racialiste Institut Iliade. L'UDR, écosystème bolloréen et sous-traitant de la mouvance comme l'incorrect ou frontière, dont les têtes d'affiche garnissaient les plateaux. À droite, il fait l'unanimité, diagnostic Rigaud. Et contre un ennemi commun, cela arrive souvent de ce côté-ci de l'hémisphère politique. Voilà pour ce portrait de Charles-Henri Alloncle, nouvelle tête de gondole de l'extrême droite, qui va peut-être succéder à la tête de l'UDR d'Éric Ciotti, ce micro-parti qui est né en 2024, qui a eu un groupe de députés à la faveur d'un accord de coalition avec le Rassemblement national de Marine Le Pen. Merci beaucoup Roquette, merci beaucoup Talion pour vos resubs, merci les copains. Bon bah voilà, un nouveau Pokémon. En 2027, je réfléchis à voter Bardella parce que ne pas le faire, ça donnerait des arguments à l'extrême droite qui pourrait se victimiser. Oui, c'est ça. C'est ce que va faire Jérémy Patrilétus. Il va voter Bardella aux deux tours en disant « On ne pourra pas me reprocher de ne pas être équilibré. Hein. » Évidemment. Un Pokémon de type Inquisiteur. Ah bah ouais, carrément. Donc on attend la publication du rapport, mais la presse s'est déjà faite écho d'un certain nombre de propositions du rapporteur, avec une proposition de faire économiser 1 milliard d'euros d'argent public sur le budget de l'audiovisuel public. Pourquoi toi, quand tu es allé parler à la commission sur ce sujet, il n'était pas là? Parce que tu confonds les commissions. Je n'ai pas été auditionné par la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. J'ai été auditionné par la commission d'enquête du Sénat sur les zones d'ombre de l'information. C'est pas la même commission d'enquête, c'est même pas la même chambre parlementaire. Petite question, les rapports des commissions sont publics, tout le monde peut les consulter. Oui, absolument. À partir de la semaine prochaine, tu pourras consulter le rapport lorsqu'il sera rendu public sur le site internet de l'Assemblée nationale. Tout le monde a accès aux travaux parlementaires, c'est public. C'est pas parce que c'est publié que ça a nécessairement des effets. Alors, quand il s'agit de défoncer l'audiovisuel public, si, ça a des effets, ça donne des armes à tous les gens, notamment toute la sphère Bolloré, qui ne rêve qu'une chose, c'est d'affaiblir l'audiovisuel public, le service public audiovisuel. Ils ont envie de taper dessus très très fort, donc avoir un rapport parlementaire sur lequel s'asseoir pour justifier leurs prétentions, c'est hyper important pour eux. Ensuite, les conclusions d'un rapport parlementaire, ça sert aux députés, à tous les députés, à nourrir leurs travaux parlementaires, notamment les membres de la commission culture de l'Assemblée nationale. Qui sont la tutelle du ministère de la Culture et donc de l'audiovisuel public et de l'ARCOM, etc., etc. Est-ce que la commission où tu as été, il y a un replay quelque part comme ceux de l'audiovisuel public? Oui, sur le site internet du Sénat. On peut voir toutes les convocations filmées sur la chaîne LCP, donc c'est déjà publié en temps réel d'une certaine façon. Non, ce à quoi vous avez accès, ce sont les auditions. Les auditions de la commission sont publiques, mais les réunions de la commission ne sont pas publiques. D'une part, certaines, dont celle qui a eu lieu hier, étaient à huis clos. Et ensuite, les conclusions du rapport sont différentes de ce qu'on a entendu dans les commissions. Dans les auditions, pardon. Voyez le circuit du truc? La commission mène des auditions et fait des collectes d'informations via des documents, puis rédige un rapport via le rapporteur, puis vote sur ce rapport. Et ensuite, si le rapport est voté, il est publié. C'est comme ça que ça fonctionne. Les votes pour la publication du rapport parlementaire sont publics? Je crois pas, non. Bah, la commission, elle est composée d'une petite trentaine de membres. T'en as un peu moins de 10 qui se sont abstenus. T'as l'extrême droite et la droite qui ont voté pour. T'as la gauche qui a voté contre. Et le rapport a été adopté. Il est public le rapport de la honte ou pas encore? Non, il sera public la semaine prochaine. Il sera publié la semaine prochaine. Si le rapport n'avait pas été voté, les auditions auraient été retirées. Oui. Alors, oui. Sauf que en 2026 après Jésus-Christ, il y a un truc qui s'appelle Internet, qui a tendance à avoir de la mémoire, et t'inquiète que ceux qui veulent y avoir accès, ils auraient trouvé moyen d'y avoir accès. Pareil pour le rapport, d'ailleurs, en réalité, pareil pour le rapport. Il y a eu un vote pour laisser les auditions en ligne. Oui, lundi, ils ont fait deux votes, les députés. Ils ont voté sur la conservation des auditions et ils ont voté ensuite sur le rapport. Et dans les deux cas, ils ont voté pour. En soi, rayer l'existence publique de cette commission n'aurait pas été si mauvais. Oui, mais. Enfin, oui, je vois ce que tu veux dire, mais tu peux pas effacer la mémoire des gens. Je veux dire, les auditions, elles ont eu lieu, tout le monde a vu ce qui s'est dit dans les auditions, tout le monde a vu les personnages, tout le monde a vu Patrick Sébastien être insupportable et justifier de son éviction de France Télévisions devant tout le monde. Je crois que tout le monde a compris maintenant pourquoi Patrick Sébastien a été viré de France Télé et pourquoi aucune chaîne ne l'a recruté depuis. Je crois que c'est assez clair. Et donc voilà, donc encore une fois, mettre sous cloche les travaux d'une commission qui ont été diffusés publiquement, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Les auditions ont fait tellement de bruit, c'est difficile d'effacer la mémoire des gens. Bien sûr. Et les auditions, et enfin, je veux dire, la commission d'enquête a produit des dégâts au sein de France Télévisions. Il y a eu plusieurs articles de journaux qui ont raconté en interne à France Télévisions l'ambiance qui règne, la trouille de l'Inquisition, l'espèce d'ambiance délétère, tout ça à cause d'un travail de commission d'enquête parlementaire bâclé. Est-ce qu'un rapport de commission d'enquête parlementaire publié peut être transmis à la justice et permettre de lancer ou d'alimenter une enquête judiciaire ? Oui, absolument. Un rapport de commission d'enquête peut servir à saisir le procureur. Porter à la connaissance du procureur de la République des faits qui relèvent potentiellement de délits pour déclencher une enquête. Ou alors nourrir une enquête déjà en cours. C'est ce qui s'était passé pour Benalla. Ouais, je crois. Je crois que pour Benalla, ça s'était passé comme ça. T'as vu la remarque de Aïda Adizadeh, qui est une députée socialiste, je crois, ou elle est écolo, je sais plus, sur le fait qu'il faudrait réformer le fonctionnement des commissions d'enquête pour éviter l'instrumentalisation, comme quoi il faudrait plusieurs rapporteurs pour avoir un fonctionnement plus collégial, par exemple. J'ai vu cette proposition, qui est une proposition intéressante. En même temps, le problème, c'est que le rapporteur de la commission d'enquête, il est traditionnellement, et c'est logique dans l'usage, il est du groupe qui a déclenché la commission d'enquête. Je vous rappelle que la commission d'enquête sur l'audiovisuel public est une commission d'enquête qui a été déclenchée par le groupe UDR à l'Assemblée nationale. Ce sont les députés UDR qui ont utilisé leur droit de tirage pour déclencher cette commission d'inquisition. Ça me paraît compliqué, sur une commission déclenchée par un droit de tirage, de retirer au groupe qui l'a déclenchée la possibilité d'avoir son rapporteur. Mais c'est à réfléchir. Honnêtement, c'est à réfléchir. Pourquoi pas, hein ? Forcer le... Mais ça veut dire que tu auras un rapporteur de droite, un rapporteur de gauche. Dans toutes les commissions. Pourquoi pas ? C'est en vrai à réfléchir. Perso, je comprends que cette commission n'était pas sérieuse, mais je n'arrive pas à accepter qu'on puisse même rendre possible la censure d'un rapport de commission. Peu importe la qualité et les objectifs d'un tel rapport, il n'a pas à être censurable. Ah oui, donc peu importe ce qui est écrit dans un rapport, il doit être publié. Pas très démocratique. Peut-être que la commission peut en discuter et en délibérer. Un rapporteur du groupe qui lance l'initiative et un membre du parti d'opposition. Pourquoi pas, c'est à réfléchir. Merci Blégan. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui nous dit que le rapport écrit a un lien avec les auditions ? Rien. Est-ce qu'on peut écrire NIMP dans ce rapport indépendamment de toute commission ? Oui, c'est le rapport du rapporteur. Il n'y a pas que les auditions dans la commission d'enquête, il y a aussi des documents qui ont été obtenus par les membres de la commission. À part l'extrême droite, tout le monde a trouvé clownesque cette commission. À part l'extrême droite et Jérémy Patrieletus, tout le monde a trouvé que cette commission était une vaste blague. Une sinistre blague, plutôt. Il y avait un président de commission, pourquoi c'est pas lui qui fait le rapport? Parce qu'il y a un rapporteur de la commission aussi, et on l'appelle comme ça précisément parce que c'est lui qui fait le rapport. C'est à ça que ça sert. Ces documents, tous les membres de la commission y ont accès. Ouais. Ouais. Comment est choisi le président? Le président de la commission, je crois qu'il est élu par les membres de la commission. C'est quoi le rôle du président? Le président de la commission, il préside les travaux de la commission, il veille au respect des règles et du règlement de l'Assemblée nationale dans les travaux de la commission, il anime, si je puis dire, les auditions. C'est lui qui introduit, c'est lui qui donne la parole, c'est lui qui coupe le micro, c'est lui qui veille au timing. Comment sont désignés les membres de la commission? Les membres de la commission sont soit les membres d'une commission permanente qui se dotent des pouvoirs de commission d'enquête, soit on crée une commission ad hoc. Composé des députés issus des groupes de l'Assemblée nationale à la proportion de leur représentativité au sein de l'hémicycle. En gros, la commission, c'est un mini-hémicycle de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que les proportions sont respectées, mais il y a beaucoup moins de monde, il y a que 30 personnes qui sont membres. Pourquoi est-ce qu'il y a une semaine d'écart entre le vote du rapport et la diffusion de celui-ci? C'est le temps qu'on apporte les dernières modifications au rapport, compte tenu des débats, de la réunion de lundi. N'y a pas déjà eu des commissions d'enquête avec plusieurs rapporteurs? Si, c'est déjà arrivé qu'il y ait des co-rapporteurs. Si c'est la volonté de la commission, il peut y avoir plusieurs rapporteurs. Si c'est décidé par la commission, de ce que je comprends, hein, il y a des commissions d'enquête dans lesquelles on a déjà eu des rapports qui ont été écrits à quatre mains. Après, parfois, tu as aussi le président de la commission et le rapporteur qui travaillent main dans la main, qui travaillent ensemble, même s'ils ne sont pas dans le même groupe politique, ils peuvent bosser ensemble. Là, ce n'était pas vraiment le cas pour Jérémy Patrilletus et Charles Alloncle, dont on a tous vu qu'ils se sont copieusement engueulés à plusieurs reprises dans des auditions. Les chiffres que France TV a refusé de dévoiler en commission, mais transmis via des documents, est-ce que ces chiffres seront dans le rapport? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'ils sont restés dans la data room. Ils vont rester dans la data room, mais ça ne doit pas empêcher le rapporteur d'écrire quelque chose dans le rapport. Par exemple, sur les niveaux de rémunération ou sur la répartition de l'argent, l'exécution des contrats, etc. On lit que la publication de ce rapport peut amener M. Alloncle à avoir une meilleure aura, sauf que le rapport va être saigné par ses détracteurs, donc c'est risqué. Bon, c'est jamais risqué d'être saigné par tes détracteurs. C'est même plutôt la rançon de la gloire. Je vous rappelle que Charles Alloncle, c'était un illustre inconnu au tout début de la commission, hein. Il est passé d'illustre inconnu à superstar de l'extrême droite. La carrière politique la plus fulgurante de l'histoire de la République. Donc, se faire taper dessus par la gauche, c'est une médaille pour quelqu'un d'extrême droite. En matière de fulgurance, Macron se pose en leader. Macron, il a fait très très fort. Macron, il a fait très très fort. Il est passé d'illustre inconnu à président de la République en un an et demi. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Je suis pas d'accord. Tu peux être brûlé par les projecteurs. Son niveau d'incompétence est manifeste pour moi. Oui, heureusement que tu as précisé pour moi. Je crois que Charles à l'oncle ne cherche pas particulièrement à briller à tes yeux. Il a toute la bolosphère avec lui, donc non, il va bien, hein. Un peu comme Bali Bagayoko qui est devenu connu quand on l'a critiqué. Oui, sauf que Bali Bagayoko, il avait rien fait. Tu vois, pas fait grand-chose. C'est vrai, mais il me semble assez manifestement mauvais pour que ça résonne pas pour tous. Mais tu sais, on en a déjà parlé sur cette chaîne, hein. La compétence et l'incompétence, c'est une mesure variable selon les opinions politiques qu'on a sur les gens. Aujourd'hui, Charles à l'oncle, il a des couronnes de laurier qui lui sont tressées par toute l'extrême droite en disant qu'il est exceptionnel, ultra compétent, très carré. Qu'il a fait un travail de longue haleine, qui ne s'est pas laissé abattre par par l'extrême gauche, etc., etc. Enfin, voilà. Tout va bien. Hein. Bardella est incompétent aussi et ça change pas ses sondages. Oui. Oui, parce que son électorat le juge compétent. Voilà, fin de la discussion. C'est toujours pareil, hein. Qui est devenu le plus célèbre entre Charles à l'oncle et Master Poulet? Master Poulet, il n'y a qu'à gauche qu'on en parle, hein. Donc le reste de la population française, la majorité de la population française, est assez au-delà de cette polémique. Master Poulet, ils sont très compétents de mon point de vue. Très bon business. Ça, c'est de l'école de commerce qui fonctionne bien, Master Poulet. Ça, c'est du plan de conquête de part de marché extrêmement efficace. Avec du poulet venu de l'autre bout du monde. C'est quoi Master Poulet? Alors, pour ceux qui n'ont pas la ref, Master Foulet est une chaîne de restauration à base de poulet. Chaîne de restauration bas de gamme, qui vend du poulet extrêmement bas de gamme et acheté à l'autre bout de l'Europe pour trois fois rien. Qui a une stratégie très agressive d'acquisition de marché par un cassage des prix très spectaculaire. Il propose des prix, mais défiant toute forme de concurrence. Sur du poulet. Et pourquoi on a commencé à en entendre parler? Parce qu'il y a une guerre qui a lieu à Saint-Ouen entre un restaurant Master Poulet, un des nombreux restaurants Master Poulet qui s'est installé à Saint-Ouen, pas très loin de la mairie, et le maire de Saint-Ouen, Karim Bouamrane. Karim Bouamrane, qui est celui qui a essayé de vaincre Bali Bagayoko lors de l'élection à la présidence de Pleine Commune. Et qui est surtout l'un des représentants de l'aile droite du Parti socialiste, proche de François Hollande, si vous voulez, pour faire simple. Et Karim Bouamrane, en tant que maire de Saint-Ouen, il essaye de lutter contre l'installation de Master Poulet. Pour des raisons, alors ça dépend. Ça dépend. Les détracteurs de Karim Wanran disent que c'est parce que Karim Wanran essaye de gentrifier le quartier autour de la mairie et d'avoir des commerces de bouche plus chers en vue de chasser les pauvres du centre-ville. Et les partisans de Karim Wanran disent que c'est une stratégie de lutte contre la malbouffe qu'il mène à Saint-Ouen. Voilà. Comment c'est possible que des gens oublient le fascisme? On parle pas de ça là, on est sur du poulet. Je suis désolé, hein. Repasse tout à l'heure. Mais le Burger King devant le Master Poulet ne le dérange pas. Ah ça j'en sais rien, je suis pas de Saint-Ouen. Hein. Je connais pas. Mais donc, si vous n'êtes pas sur Internet, sachez qu'au cours des 72 dernières heures, il fallait publiquement prendre position en faveur de Master Poulet si vous étiez anti-PS. En gros, c'est ça. Voilà, si vous n'aimez pas les socialistes, il faut prendre position en faveur de Master Poulet, nonobstant tout ce qui peut être reproché à la chaîne Master Poulet. Parce que c'est pas le moment, c'est pas le moment, c'est pas le moment. On en reparlera plus tard. Est-ce que le RN défend Master Poulet? Le RN n'a pas pris position dans cette guerre entre la France Insoumise et le PS. Je crois qu'elle soutient ni l'un ni l'autre. Je crois que... LFI est de quel côté dans l'histoire? Master Poulet. Côté Master Poulet. Quelqu'un vote encore pour le PS? Les habitants de Saint-Ouen? Contextuellement. Alors que le lobby des vaches, le RN a pris position avec clarté diaphane. Avec une clarté diaphane. Exactement. LFI qui, dans son programme, souhaite lutter contre la malbouffe et la mondialisation alimentaire. Et là, ils sont vent debout pour défendre Master Poulet. Oui, mais parce qu'il y a une cause plus importante qui est taper sur Karim Bouanran et le PS. Donc il y a un moment, ça s'appelle faire des compromis, y compris des compromis avec soi-même et ses propres convictions. Il faut choisir ses combats. Le combat contre la malbouffe reprendra après, à l'occasion de l'élection présidentielle, dans le programme. Là, ce n'est pas le moment. Mal choisi. C'est pas que Saint-Ouen, il y a des problèmes dans d'autres villes, à Paris 12, à Asnières. Oui, je sais. Merci Marine. C'est difficile de faire la part des choses. C'est difficile de faire la part des choses. Mais il semblerait, d'après des élus locaux dans des villes concernées par l'installation de Master Poulet, que Master Poulet soit une de ces franchises sans froid ni loi qui ne respectent pas beaucoup les règles et qui impose sa volonté. Et, voilà. Et donc forcément, il y a des guerres. Alors ça, franchement, les copains, ça s'appelle de la politique locale. Hein. Tous les maires de France sont en guéguerre avec des commerces pour des raisons diverses et variées d'installation, de diversification de l'offre commerciale, de maintien d'un centre-ville ouvert, etc. etc. Ça s'appelle de la politique locale. Alors là, il se trouve que ça tombe sur du poulet, mais ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Ça m'intrigue, mais s'il a réussi à ouvrir son restaurant, c'est qu'il a forcément eu toutes les validations en amont, non? J'en sais rien, j'ai pas le détail, je connais pas le dossier Master Poulet. Ce serait pas le premier commerce de bouche qui a une stratégie un peu bourrine d'installation. Et les autorisations, on verra plus tard. C'est en cours. On est en train de les demander. Faut voir. C'est, voilà, mais pour le coup, dans le contexte de Master Poulet, j'en sais rien. En plus, Karim Bouanran, il était déjà maire de Saint-Ouen avant. Et puis par ailleurs, il faut quand même rappeler un truc, c'est que le maire n'est pas tout puissant dans sa ville. Le maire ne décide pas seul de qui ouvre et ferme dans sa ville. Et de vous à moi, heureusement. Voilà, vivre dans un pays libre. Vivre dans un pays libre, c'est aussi vivre dans un pays dans lequel c'est pas un petit potentat local qui a droit de vie et de mort sur les commerces qu'il aime bien et les commerces qu'il aime pas. Bonjour le clientélisme, sinon. Donc, si Master Poulet est dans son droit, alors Master Poulet doit rester ouvert. Point, c'est tout. Et si le maire veut faire des recours en justice, je crois que Karim Bouamram a déjà fait des recours en justice contre Master Poulet, il les a perdus, la plupart, je crois, voire même la totalité, c'est que le droit est du côté de Master Poulet, et Master Poulet doit rester ouvert. Tu devrais justement, tu serais moins complaisant avec le maire. J'ai pas besoin d'être complaisant avec qui que ce soit. Je suis pas complaisant avec qui que ce soit. Prenez vos partis pris en fonction de vos opinions politiques. La question du poulet est très secondaire. La question, c'est est-ce que vous aimez ou pas le PS? C'est ça la question. À partir de là, voilà. On peut pas être neutre dans cette histoire si on peut s'en foutre. Je pense qu'on peut s'en foutre parce que, encore une fois, on parle d'un restaurant dans une ville. C'est pas le bout du monde. Vu et sans tape. Voilà. Vous avez le droit. Moi, tout ce que je vous dis, la seule chose que je vous dis, c'est que déjà, c'est pas nouveau, ce genre d'embrouille-là locale. C'est pas nouveau. Bon, là, il y a une politisation nationale d'un enjeu ultra local, et quand je dis ultra local, putain, on parle d'un restaurant dans une ville qui prend des proportions absolument lunaires. C'est pas nouveau, et ça relève de la politique locale la plus classique, quoi. Défendre un restaurant qui est traité injustement par le maire, c'est pas juste taper sur le PS. Il se trouve que contextuellement, c'est Karim Ouamran dont on parle. Et là, on a des chevaliers blancs qui défendent des restaurants. Bah, très bien, félicitations. S'il faut défendre la restauration, allons-y. Hein. Ce que je vous dis aussi, c'est que moi, j'ai bossé en collectivité locale, en mairie, et que les relations entre la mairie et les restaurants sont pas toujours faciles. Notamment sur les installations, sur les droits d'ouverture, sur les problématiques de diversification d'offres auprès du public, et parfois aussi simplement de terrasses. Les terrasses, putain, si vous saviez les terrasses, le niveau de prise de tête stratosphérique des terrasses. Les restaurateurs qui ouvrent des terrasses sans demander l'autorisation. Puis quand la mairie vient en tapant du poing sur la table en disant « Mais en fait, vous aviez pas le droit d'ouvrir cette terrasse », le restaurateur qui te répond « C'est trop tard, elle est ouverte maintenant, les clients, ils la réclament. Ah, bah, du coup, on fait comment ? On est obligé de la laisser ouverte. Ah bah voilà, ah bah bravo. Grosse privatisation de l'espace public, gratos, pour un mec qui se fait du fric. » Enfin, t'es en mode... Voilà. Qui gratte des mètres carrés petit à petit. Ah ça, c'est mes préférés. Les restaurateurs qui ferment leur terrasse. Bah oui, parce que l'hiver, il fait froid. On ne peut pas laisser les gens dehors, du coup on va fermer la terrasse et oh, on vient d'agrandir de 10 mètres carrés notre restaurant, gratos, sur de l'espace public. Elle n'est pas choucarde celle-là ? Voilà, ça c'est un grand classique. C'est un grand classique de la vie d'une municipalité, ce genre d'engueulade, ce genre de problématique, ce genre de bras de fer. Parfois ça se finit au tribunal. Hein. Parfois ça finit au tribunal. Tu as des arrêtés d'injonction de fermeture de terrasse, ça finit devant le juge administratif, machin, et ça prend des années, c'est le bordel, ça s'empoisonne, c'est compliqué, il y a des pétitions. Les clients s'en mêlent et tout. Voilà, vive la vie locale. J'ai pas compris comment ça fait pour augmenter sa surface. Tu as un restaurant qui est pile poil le long de la façade de la rue. Il y a une porte, tu l'ouvres, il y a des chaises, il y a des tables, etc. Le restaurateur ouvre une terrasse sur la voie publique en mettant des tables et des chaises sur le trottoir. Soit il demande l'autorisation, soit il ne demande pas l'autorisation, peu importe. À la limite, prenons l'exemple où il demande l'autorisation. Donc il a une terrasse, il met des tables et des chaises, c'est sympa l'été, il y a des clients et tout, il est content et tout. Puis l'année suivante, une fois que l'hiver arrive et qu'il commence à faire froid, sa terrasse se remplit de moins en moins et le restaurateur se dit « Tiens, si j'investissais pour fermer la terrasse, pour garder un peu de chaleur à l'intérieur et permettre aux clients d'être dans une terrasse fermée. Et cette terrasse fermée, elle va rester à demeure comme ça toute l'année. » Et le restaurateur vient simplement d'augmenter son nombre de mètres carrés gratuitement. Il a pris un bout de trottoir, il l'a fermé avec des cloisons, et hop, il a gagné des mètres carrés. J'ai déjà vu des restaurateurs revenir l'année suivante demander à la mairie une nouvelle extension de terrasse. Je vous jure que je l'ai vu. Alors, bah, on n'a plus de terrasse. Bah, vous n'avez plus de terrasse depuis que vous l'avez fermée. Mais vous avez toujours une terrasse, c'est juste que vous avez pris la décision de la fermer. Bah ouais, mais du coup, l'été, je fais comment? Est-ce que je peux mettre des tables et des chaises dehors? Bah non. T'as pris la décision de la fermer, ta terrasse, mais t'as une terrasse? Je vous jure que je l'ai vu. Hein. En plus, c'était un McDo. En plus, moi, le souvenir que j'ai, c'est un souvenir très précis. Je crois que c'est le McDo de Gambetta, à Paris, en face de la mairie en plus. Il nous avait fait le coup, ouais. Je sais pas si tu le retrouves encore aujourd'hui. Il a une terrasse fermée, immense en plus. Et voilà. Et après, les gens, ils peuvent plus passer avec des poussettes et des fauteuils roulants sur le trottoir parce qu'il n'y a plus assez d'espace. Et du coup, ils se tournent vers la mairie en disant, est-ce que vous pouvez élargir le trottoir? Bah, c'est pas qu'on veut pas, c'est que dans un monde normalement, vous devriez pouvoir passer sur ce trottoir s'il n'avait pas été privatisé. Non, c'est chouette la vie locale. Moi, j'aime bien la vie politique locale. C'est des embrouilles comme ça qui sont pas que des embrouilles futiles. Hein. Parfois, ça dit aussi des choses assez profondes. En l'occurrence, sur la question de Master Poulet à Saint-Ouen, ça pose la question de la gentrification. Et c'est un vrai sujet, la gentrification. C'est un vrai sujet de débat éternel, hein, d'ailleurs, y compris à gauche, d'ailleurs. Faut-il gentrifier? Ne faut-il pas gentrifier? Est-ce que la gentrification est un phénomène que l'on peut contrôler? Est-ce qu'on peut le tempérer? De quelle manière? Etc. C'est un vrai sujet. Et finalement, Master Poulet ou autre commerce de bouche de type fast-food, est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Qui attire la gentrification? Qui la repousse? Voilà. Ah bah voilà le sujet, pas LFI, ils sont méchants contre le maire PS. Oh Bichette, Michette, tu l'as mal pris. En général, la gentrification, c'est un peu tout. Bah c'est un phénomène complexe, c'est un phénomène plurifactoriel qui je veux dire, je pense que le prix du logement joue plus que le prix du logement joue plus que les commerces, surtout les commerces de bouche. Comment les mairies peuvent-elles faire pour empêcher les fast-foods de s'installer? J'ai entendu dire que le PLU ne se modifie pas si facilement que ça. Le plan local d'urbanisme, c'est difficile à modifier. Effectivement, ce n'est pas un truc que tu refais tous les ans, d'autant que c'est sur des projets sur 15-20 ans, notamment pour la construction de logements, de commerces, d'entreprises et tout. Je t'avoue que je ne sais pas précisément quels sont les plans dont peuvent bénéficier, enfin, quels sont les leviers dont peut bénéficier un maire pour empêcher des commerces de s'installer. Je crois de mémoire qu'il existe des plans de sauvegarde, notamment des commerces de centre-ville, par exemple dans les rues commerçantes, pour éviter que les commerces historiques de la rue commerçante, qui font l'attrait de la rue commerçante, soient remplacés petit à petit par des commerces qui sont tous les mêmes. Il existe des planifications locales qui sont faites probablement en lien avec la chambre de commerce et d'industrie. Probablement pas, je sais pas. C'est un des deux. Voilà, t'as des options comme ça qui existent qui te permettent de veiller à ce que la bonne vieille rue commerçante qui fait l'âme du centre-ville reste une bonne vieille rue commerçante. Alors tout ça doit se faire dans la discussion, la concertation, la négociation, y compris avec les commerçants eux-mêmes. C'est pas toujours facile. Il y a des commerces qui simplement ferment parce qu'ils ont plus de fric. Vous le savez, je ne vous l'apprends pas. Il y a aujourd'hui la concurrence d'Internet et de la livraison de colis à domicile, qui fait que certaines rues sont moins commerçantes qu'avant, en tout cas les commerçants ne s'y retrouvent pas économiquement, n'arrivent pas à suivre parce qu'ils vendent moins qu'avant, parce qu'ils sont en baisse de chiffre d'affaires pour un milliard de raisons et tout. Les centres commerciaux aussi, oui, bien sûr, les centres commerciaux qui font du mal au centre-ville, les gens ne vont plus en centre-ville faire leurs courses, ils préfèrent aller chez Leclerc parce que chez Leclerc au moins t'as tout sous la main et pour moins cher. Donc voilà, vous voyez, tout ça, c'est un ensemble de phénomènes, certains sur lesquels tu peux avoir la main, mais on va pas se mentir, pas grand-chose. Et d'autres que tu vas juste subir comme tout le monde. Ouais, les Dark Kitchen. Les Dark Kitchen et la livraison de nourriture à domicile. Ça aussi, ça fait de l'ombre au vieux commerce de bouche qui est là depuis toujours. Le petit restaurant chinois qui paye un loyer hyper cher parce qu'il est assez bien placé en centre-ville, qui se retrouve concurrencé en livraison à domicile par des Dark Kitchen à l'autre bout de la ville, en périphérie, qui vendent vachement moins cher que lui, le Boboon. Et bon, bah, c'est hyper ingrat comme concurrence. Le PLU peut empêcher dans certains secteurs ou limiter certaines activités, mais si le PC est conforme au PLU, le maire ne peut rien faire. Ben, ça ne m'étonne pas. Ça m'étonne pas. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Non, le maire n'est pas tout puissant en sa commune. Il peut pas empêcher, parce que ça ne lui revient pas, parce qu'il n'est pas content, l'ouverture d'un commerce. Merci, Noct. Merci. Les loyers des centres-villes font mal au commerce. Bien sûr, au cours de la campagne municipale, j'ai entendu des candidats proposer, notamment à gauche, hein, des candidats de gauche, qui ont proposé des encadrements des prix des loyers commerciaux, en disant à peu près la même chose que pour les loyers des logements. On a le même problème que les loyers des logements. On a des gens qui n'ont plus les moyens d'habiter dans la ville. Et là, en l'occurrence, on parle de commerçants. Il y a des commerçants qui ne s'y retrouvent plus parce que leur loyer augmente, ils n'ont pas plus de clients qu'avant et ils vont être obligés de fermer alors qu'ils sont là depuis 20 ans, 30 ans et ils vont être remplacés par je ne sais pas quel commerce qui a du fric et qui va pouvoir truster la place et on va perdre un commerce de bouche, etc. Machin. Enfin, voilà. Moi, je trouve ça intéressant, cette proposition. Starbucks et Zara. Ouais, voilà, c'est ça. Tu te retrouves avec un énième Starbucks, ou un énième McDo, ou un énième Zara, ou un énième, etc. Et tous les centres-villes de France se ressemblent. Et voilà. Bon, il y a des élus locaux qui essayent de lutter contre ça. Face à la gentrification, que peuvent faire les maires ? Face à la gentrification, ce que peuvent faire les maires, et ce que font les maires de gauche, hein, c'est construire, conserver et préempter des logements sociaux. Pour éviter qu'un quartier, pour garder dans un quartier une certaine mixité sociale, garder des lots dans les immeubles ou carrément des immeubles entiers à la disposition du logement social pour des loyers modérés pour des personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter leur propre logement social, leur propre logement tout court, pardon. Donc le meilleur moyen de lutter contre la gentrification, c'est le logement social. Très triste de voir ces grandes chaînes tout prendre, alors que la beauté de la France, c'est aussi l'artisanat et la restauration. Tu parles de Master Poulet ? C'est une chaîne, mais c'est pas une si grande chaîne que ça. Enfin, c'est des franchisés, en l'occurrence. Quand plus personne pourra se loger, ou son commerce, il va y avoir du boulot, les gens iront à nulle part. Bah, tout le problème de l'augmentation des prix du logement, que l'on retrouve aussi dans l'augmentation du prix des loyers des commerçants. Le problème, c'est qu'ils continuent de faire des logements sociaux construits les uns sur les autres. Ils reproduisent les mêmes erreurs qu'autrefois. Non, parce que maintenant, la plupart du logement social qui est construit, c'est du logement diffus. C'est soit des petites unités d'habitation, genre du faubourien, tu vois, typiquement du N plus 2, N plus 3 max, soit c'est carrément la préemption d'appartements dans des ensembles privés. C'est-à-dire que tu as un immeuble privé dans lequel il y a 2-3 appartements qui appartiennent à un bailleur social et qui est mis à disposition de personnes qui ont des loyers modérés, du coup. L'époque des grands ensembles, l'époque des immenses barres d'immeubles de logement social est une époque qui est assez révolue, quoi. N plus 2, N plus 3, c'est le nombre d'étages. Oui, le nombre d'étages, c'est... Non, c'est pas N, c'est R, pardon. R plus 1, R plus 2, R plus 3. C'est pas N. R plus 1, c'est un immeuble avec un rez-de-chaussée et un étage, mais rien d'autre. R plus 2, c'est 2 étages. R plus 3, c'est 3 étages. L'immeuble typique parisien haussmannien, c'est R plus 6. R plus 6 ou 7, ça dépend des immeubles haussmanniens. R plus 6, et comme vous le savez, il y a un balcon au deuxième étage et un balcon au cinquième étage. C'est ça ? Oui, c'est ça. Le logement social n'est vraiment pas le meilleur outil pour contrer la gentrification. Il ne faut s'attaquer pas aux causes structurelles. Mais un maire, il ne peut pas toucher aux causes structurelles. Qu'est-ce que tu me racontes ? Heureusement qu'il y a le logement social. Il se veut qu'il fasse d'autres, le maire. En architecture haussmannienne, le deuxième étage est dit le bel étage. Ouais. Celui qui a de la ferronnerie aux fenêtres. Quand est-ce qu'on socialise la construction de logements à l'ancienne ? Le pic de construction, c'est les années 70, et maintenant on construit 10 fois moins. Mais il faut un endroit pour construire. Le problème, c'est le foncier aussi. Je sais pas si t'as remarqué, mais Paris, là, c'est plein. Hein. Paris, c'est bon. C'est Paris, on peut pas faire plus. Ça fait à peu près un siècle. Le fait que tu socialises la construction ou pas ne change rien au fait que t'aies de la place ou pas de la place. Paris ne peut pas annexer les territoires voisins pour augmenter son foncier. Tu veux dire annexer Saint-Ouen et fermer Master Poulet ? Je suis pas sûr. Vraiment, je suis pas sûr. On pourrait raser tous les parcs qui servent à rien pour mettre des baraques. Je suis d'accord avec toi, il y a trop d'espaces verts à Paris. C'est connu d'ailleurs. C'est la capitale européenne avec le plus d'espaces verts par habitant. On pourrait annexer la Belgique. Est-ce que quand les baby-boomers vont mourir dans les 20 prochaines années, ça va pas régler le problème du logement ? Non, parce que le problème du logement, c'est pas un problème comptable, c'est aussi un problème de situation géographique des logements. Ça dépend d'où habitent les gens et de la disponibilité des services pour les gens là où ils habitent. Si les vieux, je vais le dire vulgairement, mais si les vieux meurent en habitant dans une résidence senior, loin de tout, t'as pas vraiment réglé le problème du logement, là. T'as juste une chambre qui s'est libérée dans un EHPAD. La question, c'est la disponibilité des logements là où on a besoin de logements. Les logements de courte durée posent une partie du problème. Oui, dans les centres-villes, oui. Merci Manu Biwan. Dans les centres-villes, clairement. Paris, c'est un exemple. Je parle de Paris parce que j'ai bossé à la mairie de Paris, mais à Paris, Airbnb est un problème. Airbnb retire du marché locatif des logements entiers et de très nombreux logements entiers pour les mettre à disposition d'une clientèle de touristes. Les touristes aussi ont besoin de dormir, donc il faut trouver une offre hôtelière, etc. Il y a un milliard de trucs à réfléchir, mais on ne peut pas se permettre dans une tension, dans une ville comme Paris où il y a une tension sur logement aussi importante, d'avoir une offre privée de courte durée Airbnb aussi importante. C'est pas possible. Et je parle même pas des logements vacants. Alors je sais pas si vous avez vu, mais le nouveau maire de Paris, Emmanuel Grégoire, a annoncé que Paris allait plus que doubler la taxe sur les logements vacants pour forcer les propriétaires de logements vacants soit à les mettre sur le marché locatif, soit à les vendre pour qu'ils soient mis sur le marché locatif. Très bonne nouvelle. J'avais vu des estimations en nombre de logements que ça devrait libérer. Je me souviens plus du chiffre. Je me souviens plus du chiffre du nombre de logements qui devait retourner sur le marché locatif le plus rapidement, quoi. Ils en font quoi de leur logement vide, en fait? Il y a beaucoup de logements. Je ne suis pas un expert de la problématique du logement, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait une partie du parc locatif vide qui était des logements en attente. Le problème, c'est que l'attente, pour des raisons complexes, peut durer 2 ans, 3 ans. Genre en attente de travaux, en attente de réhabilitation, en attente de vente, dans un circuit judiciaire compliqué parce qu'il faut régler une affaire au tribunal et dans l'attente, bah, le logement il reste vide parce que machin, le temps de régler la succession du vieux qui est mort, et des trucs comme ça. Bon, bah, t'as des logements qui restent vides trop longtemps, simplement parce que bah, c'est en cours, on doit bien en faire quelque chose, oui, on le sait, on est sur le coup. Ouais, t'as les indivisions, par exemple, les indivisions, quel enfer, les indivisions. Bon courage à tous les juristes qui travaillent sur les indivisions. À Paris, c'est un logement sur 5 qui est vide environ. Ouais, un logement sur 5. Ça parle de quoi les indivisions? Les indivisions, c'est un régime juridique dans lequel il y a une propriété qui est partagée de manière indivisible entre plusieurs personnes. Typiquement, Mamie Zinzin décède, RIP, et son appartement appartient de manière indivise entre ses 3 enfants. L'appart de Mamie Zinzin appartient aux 3 enfants. Sauf que les 3 enfants se détestent. Ils se parlent pas. Vieilles histoires de famille, les embrouilles, les embrouilles. Vous connaissez, on en connaît tous. Voilà. Bon, c'est les problèmes, c'est les problèmes. Et bien, le temps qu'on règle la succession de Mamie Zinzin, le temps que les avocats se parlent, le temps qu'une offre soit faite, le temps qu'on sorte de l'indivision, qu'on propose, qu'on organise tout le merdier avec le notaire, etc., etc., etc. Et eh ben, l'appartement de Mamie Zinzin, il peut rester vide un petit bout de temps. Voilà. Cas typique d'un logement resté vacant pour cause d'indivision qui traîne. Parce que la petite sœur, elle fait chier. Parce qu'elle veut pas vendre. Parce qu'elle casse les couilles. Voilà. La famille Zinzin. Voilà, c'est la famille Zinzin. Le daron en procédure depuis 5 ans pour la maison des grands-parents. Exactement. Et se dégrader au passage et nécessiter des travaux. Ah oui, parce qu'une fois qu'on a réglé l'héritage de Mamie Zinzin et que l'appartement n'est plus en indivision, une fois que le grand frère a racheté les parts de ses petites sœurs, Et bah, le grand frère, il se retrouve avec un vieil appartement tout moisi qui n'a pas été habité depuis 3 ans. Et il faut faire des travaux. Et puis, quitte à faire des travaux, il veut faire de l'agrandissement. Donc, il se lance dans un projet avec un architecte pour essayer de voir s'il n'y a pas moyen de faire une véranda. Et enfin, bref. Bref, on est reparti pour 2 ans de voilà. L'architecte des bâtiments de France qui vient mettre son nez dans le projet. Et voilà. Et voilà comment un appartement peut être inoccupé pendant 5 ans. Il veut faire une terrasse sur la rue, et ouais, voilà, c'est ça. Mon père est dans cette situation. Mon grand-père a fait donation des 2 maisons à mon père parce que ses beaux-frères veulent pas parler. Après le décès de mon grand-père, on sortira le pop-corn. Non, tu sortiras pas le pop-corn. Parce que les beaux-frères vont faire une action en justice pour attaquer la donation. Tu vas voir. Non, prends-toi un avocat. Prends-toi un avocat vite. Et prépare-toi, ça va durer. Attention le marathon. Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui craque ou qui meurt. Et quand les travaux commencent, il y a plusieurs équipes d'ouvriers qui l'abandonnent. Ah bah oui, évidemment. Une fois que les travaux ont commencé, l'entreprise, le maître d'œuvre des travaux, dépose le bilan et part avec le fric. Du coup, le propriétaire, il se retrouve à faire une action en justice pour essayer de retrouver son pognon, qu'il retrouvera jamais. Hein, non, tu t'es juste fait arnaquer par le BTP. C'est la règle. C'est fini pour toi. Et il va devoir relancer un projet avec un nouvel entrepreneur. Et après, il va falloir qu'il embauche un autre entrepreneur pour récupérer les malfaçons. Parce que le chantier a été fait n'importe comment. Avec un peu de chance, une pandémie mondiale va pointer le bout de son nez. Et hop, une pandémie. Et hop, une pandémie. Il va attraper le virus, le propriétaire, donc toujours Monsieur Zinzin. Hein. Il va attraper le virus, il va mourir. Et ses 2 sœurs qui ne veulent pas se parler vont se retrouver à nouveau propriétaires en indivision parce qu'il n'avait pas de descendants et il n'avait pas fait de trucs là, après son décès. Et du coup, les 2 sœurs se retrouvent, de testament, voilà, merci. Et les 2 sœurs se retrouvent propriétaires à nouveau en indivision d'un appartement qui est toujours le même appartement, mais qui est complètement défoncé parce que les travaux ont été mal faits. Elles sont propriétaires en indivision et elles sont confinées ensemble. Non, c'est sympa, c'est... Voilà. Moi, de toute façon, moi je suis juriste publiciste. Hein. Moi, j'ai choisi le droit public. Hein. Précisément parce que je voulais plus jamais entendre parler de ce genre d'embrouille. Foutez-moi la paix, les privatistes. Laissez-moi tranquille. Fouf. Quelle heure il est? J'ai encore un peu de temps parce que, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, il n'y a pas de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale parce que j'ai un mot du médecin. J'ai un mot du médecin. J'ai un rendez-vous chez mon dentiste. J'ai un rendez-vous chez mon dentiste à 16h et quelques. Mais ça va, il est dans mon quartier, c'est à côté. Et donc voilà, donc je ne peux pas faire les QAG. Mais rassurez-vous, il y aura les QAG demain. Est-ce que tu as vu, Carl Olive a été condamné à 150 jours amende pour avoir causé un accident en utilisant un gyrophare en toute illégalité? Quoi? Quoi? Carl Olive utilise un gyrophare? T'imagines, t'es en train de conduire tranquillement. Là, tu vois un gyrophare qui s'allume derrière toi, tu fais oh merde, tu te mets sur le côté et tu tournes la tête, tu vois Carl Olive passer avec un gyrophare comme ça. Quoi? Qu'est-ce que quoi? Donc il a été condamné par la justice. La justice a fait son travail. Écoute, qu'est-ce que je te dise? Formidable, hein? Ouais, non, je sais pas. Bon, j'ai un article à lire avec vous sur la campagne présidentielle de Bruno Retailleau. Où en est Bruno Retailleau dans sa pré-campagne présidentielle? Bruno Retailleau qui est sorti renforcé du vote des militants LR qui l'ont investi officiellement candidat à l'élection présidentielle, sans qu'on sache à ce stade s'il ira jusqu'au bout, sans qu'on sache à ce stade si Bruno Retailleau se soumettra à un exercice de primaire dans lequel il pourrait éventuellement s'opposer à, qui sait, Sarah Knafo, qui sait, ça m'étonnerait, Dominique de Villepin, Édouard Philippe peut-être? Non, je pense pas. Où est-ce qu'on en est? Contre vents et marées, Bruno Retailleau s'élance dans la présidentielle. Bruno Retailleau avec sa petite doudoune qui ne le quitte plus. Qu'est-ce qu'il raconte? À peine investi, le chef des Républicains met l'accent sur le régalien. Le regard tourné vers les électeurs du RN et les déçus du macronisme. Bon courage, Bruno Retailleau, pour réussir à attirer à lui et les déçus du macronisme et les électeurs RN. Sachant que les électeurs RN, ils ont déjà un champion, c'est Jordan Bardella, et puis c'est tout. Ah, bah, c'est pas si facile que là. C'est pas si facile que ça de réussir à les attirer. Le match est plié. Je suis le représentant des LR. Je trace ma route. Ceux qui se mettront sur notre chemin se mettront hors de notre famille politique. La détermination avec laquelle Bruno Retailleau lance sa campagne présidentielle est visiblement appréciée dans la petite salle polyvalente du quartier de la Roseraie, dans le sud-est de Toulouse. En répondant à une question sur la gestion des égos au sein du parti, posé par deux sympathisants, évidemment, l'invité soulève des applaudissements. Je suis sûr qu'il a parlé de Laurent Wauquiez, juste pour faire chier. Une centaine de curieux ont été rassemblés à la dernière minute pour savoir ce que le président des Républicains a dans le ventre, alors que le dernier scrutin interne vient de le consacrer au poste de candidat officiel des LR. Le sénateur de la Vendée affirme qu'il ne s'attendait pas à une mise en orbite aussi claire vers la présidentielle 2027. Tu parles? Tu parles, il le savait que les militants y voteraient pour lui. Il le savait. Il n'y a que sur la chaîne de Jean Massier qu'on avait un doute. Ouais, ça va. Quelques figures du parti ont minimisé le résultat de ce vote interne en pointant le niveau de participation, 44 000 participants sur 76 000 adhérents. Je note que 44 000 adhérents, c'est pas mal pour un parti des Républicains qui est aux fraises depuis des années. Je crois qu'ils étaient remontés à plus de 200 000 adhérents en 2022, à l'occasion de l'exercice de primaire qu'ils avaient organisé. Mais vu ce qui reste aujourd'hui de LR, 40%, 44 000, c'est pas mal. Le maire de Meaux, Jean-François Copé, l'a fait au soir des résultats le 19 avril en expliquant que lui-même n'avait pas participé à l'élection. Oui, mais Jean-François. Oui. Un scrutin critiqué également en amont par Laurent Wauquiez qui avait annoncé son intention de voter blanc après avoir dénoncé une méthode vouée à faire échouer la droite dans un an. Face à un tel manque d'unité, les premières troupes LR auxquelles Bruno Retailleau veut s'adresser à Albi et à Toulouse ont visiblement très envie d'encourager le candidat élu, mais nombre d'adhérents veulent aussi comprendre comment le chef compte surmonter les obstacles à venir qui ne manqueront pas. C'est ça un peu le problème de Bruno Retailleau, c'est que Bruno Retailleau, il a été investi candidat d'un parti qui n'est pas vraiment un parti uni. C'est un peu comme le PS, hein. Tu peux organiser toutes les consultations des militants que tu veux, ça règle rien. Ça règle rien, c'est toujours l'engueulade. Aucune attaque ne m'atteindra, avance l'élu. Il se dit prêt à incarner des idées en ôtant la carapace sans tromper les Français. Bon, jusque-là, ça veut rien dire. Ni sur l'état du pays, ni sur ce que je suis moi-même, précise-t-il. Le devoir de vérité, évidemment, on l'entend à chaque élection présidentielle, c'est bien normal. En coulisses, la métamorphose est encore plus frappante. Comme si le candidat, conscient du travail restant à fournir pour s'imposer dans l'esprit des Français, avait intégré tous les paramètres d'une aventure qui l'obligera à casser son image d'intellectuel de droite, parfois jugé trop fragile pour affronter le plus grand combat le plus grand des combats politiques. Vous pensez que Bruno Retailleau, il a une image qui ne lui permettra pas d'être présidentiable parce qu'il est trop intello, trop de droite sénatoriale, trop vendéen, trop détaché, décontenancé, trop bourgeois? C'est vrai qu'il fait pas très droite populaire, hein? Il fait pas très droite populaire, c'est vrai. Il fait pas non plus trop droite business. On en a vu hein, des leaders à droite qui avaient vraiment un profil cadre dirigeant de grande entreprise. Je suis désolé, c'est un peu Laurent Wauquiez, hein. Tous mes respects, mais bon. Ouais, c'est vrai qu'il fait droite Fillon, il fait vieille garde réac. Ouais, il fait vieille garde réac, ouais. Je sais pas. Après, l'électorat de droite, il y a plusieurs électorats de droite, c'est pour ça que c'est pas facile de jauger, mais... Sarkozy avait réussi à être un très bon caméléon. Sarkozy, il réussissait à faire droite populaire avec son travailler plus pour gagner plus, la France qui se lève tôt, etc. C'était des thèmes très mobilisateurs qui marchaient très bien. Mais Sarkozy, il passait très très bien aussi auprès des grands patrons. Il était aussi à l'aise quand il était entouré de technocrates, de grands cadres dirigeants, des grandes industries, etc. Il a un petit côté l'allemand. Ouais, il a un petit côté l'allemand. Ouais. À voir. Mais à l'entendre, même cet Himalaya du dépassement est à portée de piolet. Car plus que jamais, Bruno Retailleau fait montre d'un mental de compétiteur qui croit en ses chances. Cette longue tirade glanée sur les routes du Tarn est éclairante. Les gens ont appris à me connaître au ministère de l'Intérieur. Jamais je n'ai courbé l'échine devant la bien-pensance. J'ai suscité des polémiques à maintes reprises. J'ai dû affronter des désaccords avec le chef de l'État. Jamais je n'ai capitulé. Aujourd'hui, prendre la décision de se présenter à une élection présidentielle, c'est une décision extrêmement grave et qui engage chaque cellule, chaque fibre de son corps, et par conséquent, rien ne me fera reculer. Je dirai la vérité, je convaincrai les Français. Je ne ferai pas de marketing électoral, je ne chercherai pas à séduire avantageusement avec des slogans publicitaires, et de même, je ne ferai pas de segmentation, je ne m'adresserai pas à des clientèles successives, je m'adresserai au peuple français et je les convaincrai, j'en suis certain. On peut lui accorder un point de ténacité. Bruno Retailleau montre qu'il en veut. Il en veut fort, il en veut beaucoup. Le côté capitaine qui tient la barre, etc. Admettons. C'est marrant son retour sur l'époque où il était au ministère de l'Intérieur. Où il explique qu'il a réussi à tenir tête au chef de l'État parce que Bruno Retailleau, il essaye de paraître le moins macroniste possible. C'est un peu le drame de Bruno Retailleau, c'est qu'il a été ministre de Macron. C'est difficile de jouer l'anti-Macron après. Mais pour séduire un électorat du RN, c'est vrai que c'est important. C'est vrai que c'est important. Bon. En tout cas, Bruno Retailleau, il lâchera rien. Il sort les dents et il le montre à tout le monde. Celui qui se vante d'être un rural a écouté avec attention dans ses dernières réunions publiques de campagne. Les gens le regardent en imaginant qu'il pourrait être la nouvelle incarnation de la droite. Il va jusqu'à promettre la victoire avec une assurance inédite. Ah ouais, mollo, 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 Bruno. Mollo, la victoire, c'est des grands mots. Embûches. Embûches internes, sondages, primaires élargies. Bruno Retailleau évacue tous les irritants et veut faire mentir les sceptiques. Il se donne 12 mois pour convaincre et semble parfaitement lucide face au risque, mais son envie palpable est le fruit d'une décision mûrie avec ses proches. Convaincu d'avoir un projet à défendre pour le pays, il dit ne pas être animé par une ambition narcissique, explique qu'il n'a jamais été programmé dans cette optique, mais qu'il se sent prêt à défendre un projet de redressement national à la tête d'une entreprise collective. C'est vrai que Bruno Retailleau, on ne peut pas dire qu'il a une carrière politique tout entière tournée vers l'Élysée. Il n'est pas né pour ça, il n'était pas fait pour ça. Il a commencé dans l'ombre de Philippe de Villiers avant de s'en écarter pour rejoindre la droite traditionnelle, si je puis dire. Président de conseil départemental, il a fini sénateur. Les sénateurs, vous le savez, ils sont pas au cœur de la vie politique. En tout cas, c'est pas les plus connus. Il a été président de groupe au Sénat. Oui, bon, très bien. C'était pas encore. Voilà, il est pas dans l'écurie présidentielle depuis le début. Il s'est retrouvé catapulté au ministère de l'Intérieur. C'est ça vraiment qu'il a fait connaître du grand public. Il est un peu sorti de l'ombre à ce moment-là. Mais quand il dit que c'est pas un exercice narcissique. J'ai presque envie de dire qu'il s'est retrouvé là par accident et que maintenant, il doit rétrospectivement prouver qu'il en veut à un électorat qui peut en douter. Pas de sang ni de larmes, mais l'écriture d'un rebond indispensable, guidé par une vision de droite qu'il croit aussi éloignée du social-étatisme RN que du centrisme macroniste. Je n'ai pas été désigné pour composer avec ceux que rejettent 9 Français sur 10, prévient-il, comme s'il refusait d'emblée de dissoudre l'offre LR dans des concessions promises à de futurs renoncements. Oui, mais c'est normal, c'est normal, c'est normal. À ce stade de l'élection, Bruno Retailleau, il a besoin de justifier sa candidature. Une candidature qui n'est pas favorablement portée par les sondages, une candidature qui est encore sous la menace d'un exercice de primaire. Bruno Retailleau, il a besoin de dire « Voici mon drapeau, et mon drapeau, c'est le plus beau. » Donc, on est vraiment au moment de l'autonomie stratégique absolue. Bruno Retailleau, il essaye de s'écarter du macronisme au maximum et de s'écarter du lepenisme au maximum pour proposer une sorte de troisième voie à droite. Est-ce que ce sera une synthèse ? Possible. Mais surtout, est-ce que ça séduira les électeurs ? Encore une fois, il y a du monde sur son créneau. D'ailleurs, il observe avec étonnement les promesses de la Macronie, que ce soit en matière de relance industrielle ou de sursaut sécuritaire. Ils seront comptables d'un bilan auquel ils ne pourront pas échapper, confie-t-il au Figaro. C'est gonflé. C'est gonflé. C'est gonflé parce que il est lui-même comptable du bilan de Macron en matière de sécurité. Il y a un moment, ça va. Il a quand même été ministre de l'Intérieur. Alors ok, il s'est pris le chou avec l'Algérie. Et on a surtout parlé de ça à ce moment-là. Mais voilà, il l'a validé quand même. Confie-t-il au Figaro en ciblant les deux ex-premiers ministres d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe et Gabriel Attal. Ils auront beau critiquer le président de la République, qui leur a tout donné, ils ne pourront pas se libérer de cette marque-là. Et si aujourd'hui les Français ne se projettent pas encore sur l'élection présidentielle, je suis persuadé qu'ils ont déjà tranché sur le bilan. À un moment ou à un autre, ils sauront s'en rappeler. On en reparlera de ça. On en reparlera. Parce que je ne suis pas sûr que les électeurs qui votent pour Édouard Philippe, par exemple, ils n'ont pas une dent contre Macron d'une manière ou d'une autre. Il y a peut-être un peu d'électorat déçu. Un électorat de centre et de droite qui a voté Macron et qui, aujourd'hui, reproche à Macron des trucs et qui se retrouve bien dans une candidature un peu autonome, un peu différente, un peu divergente, comme celle d'un Édouard Philippe. À la gravité de son discours, Bruno Retailleau veut associer des perspectives positives. Il le dit avec force à Albi, sur les terres de la députée européenne Céline Imar, qui lui promet un soutien indéfectible jusqu'à la victoire. Face à plus de 200 albigeois, le provincial de Vendée lance un appel à la mobilisation. Le devoir de chaque génération est de transmettre une France meilleure. Montez en première ligne. La France ne va pas bien, mais demain, on va la relever. Vous ne pouvez pas vous planquer. Ce que je vous dis ce soir, de façon grave, c'est que vous ne pouvez pas passer à côté de cette échéance 2027. Il y a une extraordinaire aventure, je la sens, je ne l'ai jamais sentie aussi bien. Comment ça, je la sens ? Oui, bon, non, mais d'accord, ok, encore une fois, on a un Bruno Retailleau qui est en début de campagne présidentielle, qui essaye de sonner le tocsin de la mobilisation auprès de son électorat pour éviter qu'il se disperse. Oui, il n'a pas le choix. En fait, je pense qu'à ce stade-là de la campagne, il n'a pas le choix. Il est obligé de sonner tambours et trompettes pour mobiliser son électorat, pour en faire un bon socle, un socle solide sur lequel il va pouvoir construire une campagne. Le sénateur décrit une France dans une situation d'extrême fragilité, mais il la croit mieux armée pour rebondir que d'autres nations que l'on croyait condamnées, dans le sud de l'Europe notamment. Attends, quoi ? Le sénateur décrit une France dans une situation d'extrême fragilité, mais il la croit mieux armée pour rebondir que d'autres nations que l'on croyait condamnées, dans le sud de l'Europe notamment. C'était quoi les nations condamnées ? L'Italie, l'Espagne ? La Grèce ? Bon, ça va mieux qu'avant quand même. L'Espagne avec les migrants ? Ah ouais. Oui, peut-être. Non, je sais pas, pourquoi pas. Si Bruno Retailleau met l'accent sur les urgences régaliennes, ce n'est pas un hasard. Il sait que les Français attendent des solutions pour l'immigration et la sécurité et prétend que la droite peut y répondre, sans cacher sa volonté de s'adresser directement aux électeurs du RN. Quand le Premier ministre du gouvernement d'Espagne annonce la régularisation massive de 500 000 étrangers en situation irrégulière, il assume son intention de le mettre au banc des nations européennes pour contrer l'irresponsabilité politique qu'il perçoit derrière cette décision unilatérale. Il le dit au lendemain de sa désignation et presse le pouvoir français de réagir via un durcissement des contrôles aux frontières. Même au sein des LR, cette tonalité surprend un peu, mais le candidat maintient ses propos. Il le redit énergiquement à Nanterre jeudi matin, au pied des tours Pablo Picasso, minées par le narcotrafic. « Je ne retire rien, pas une virgule, pas une intonation, pas un mot », martèle Bruno Retailleau, avant d'accuser une nouvelle fois Pedro Sanchez de briser l'Europe de la solidarité. Le candidat ose promettre la remise en ordre du pays en 5 ans. Oui, ambitieux. Mais pourquoi les Français croiraient-ils cette figure LR aujourd'hui ? Parce que nous pouvons faire ce qui n'a jamais été essayé, soutient-il. On aimerait bien savoir quoi. On aimerait bien savoir quoi. Je pense que Bruno Retailleau, dans les semaines et les mois qui viennent, va tenter de se démarquer médiatiquement par des sorties provocantes. Exactement ce qu'il a fait avec l'Espagne, qu'il faut mettre, selon lui, au banc des nations européennes. Je pense que Retailleau, il est dos au mur, il a besoin de se faire un trou politiquement, et que pour ça, il va taper fort. Il va sortir les propos chocs. Il va y aller fort. Il va refaire du Sarko, quoi. Il va refaire ce qui avait bénéficié à Nicolas Sarkozy en 2007. Des concepts mobilisateurs, c'est marrant parce que c'est lui-même au début de l'article qui disait qu'il voulait pas faire du marketing. Oui, un peu quand même. Sur l'autoroute du Pastel, longeant les plaines de l'Auragais et les collines du Tarn, Bruno Retailleau se dit habité par un sentiment d'urgence, parce qu'il voit la présidentielle 2027 comme celle de la dernière chance. La France est au bord du gouffre, les Français s'appauvrissent, et le pays est déclassé. Les gens ne s'abonnent plus à la chaîne Twitch de Jean Massier. Il faut renverser la table. Et je ne veux pas me noyer dans une soupière d'eau tiède. On ne peut pas réparer la France avec de la rustine et des méthodes qu'on utilise depuis des dizaines d'années, comme si devant chaque problème, il fallait systématiquement faire des chèques en bois. C'est terminé. Aujourd'hui, s'il continue de penser que le meilleur ennemi de la droite, c'est la droite elle-même, il affirme que sa porte reste ouverte et sa main tendue. Mais à qui ? À qui ? Mais il n'entend pas transiger avec une exigence qu'il souhaite défendre comme un symbole. Merci Myrigan. Car cette droite qu'il veut incarner devra être celle d'un changement réel. Dans une société très polarisée, si on ne porte pas une ligne de rupture et de radicalité, on n'est pas entendu. Et en plus, la France ne supportera pas. Si on veut réparer le pays, pas de placebo, prévient-il. Pas de placebo. C'est un peu nul comme slogan, mais en tout cas, putain, moi je suis marqué par le volontarisme affiché par Bruno Retailleau. Hein. Bruno Retailleau, il mâche pas ses mots. Hein. On est à 1 an de la présidentielle, rien ne va. Grâce à moi, tout va revenir. La situation est d'une urgence absolue. Je suis le seul capable de mener à bien la refondation du pays en 5 ans. Ah ouais, non, c'est... Ah non, ça rigole pas, hein. Ok, intéressant. En durcissant le ton face au bilan macroniste, ne prend-il pas le risque d'être accusé de catastrophisme? Ou pire, d'être renvoyé dans le camp des populistes? Hein? Personne n'a envie d'être dans le camp des populistes. Le populisme, c'est mal. Bruno Retailleau ne craint pas cette menace. Il n'a pas l'intention de se laisser enfermer dans le costume de l'oiseau de mauvais augure. Autant je porte un regard extrêmement sévère sur l'échec d'Emmanuel Macron, autant, et c'est la raison de mon engagement, je veux porter un message d'espérance, assure-t-il. C'est beau l'espérance. C'est beau l'espérance. Moi, je veux de l'espérance. Durant ses premiers jours de campagne, il annonce de nouvelles propositions à venir sur la famille, avec des incitations fiscales ou encore un discours de droite sur l'écologie. Il assume une inquiétude sur la question de l'euthanasie, qui, selon lui, devrait nous alerter sur la société dont nous voulons. Il évoque aussi la préparation d'un livre, dans un style très inhabituel et sous forme très originale, à paraître à la rentrée. Ah. Ah. Il va sortir un livre très inhabituel, sous une forme très originale. Il va nous sortir un livre érotique dont vous êtes le héros. Ou une BD. Ah, il a sorti une BD. Il va sortir un manga. Il va sortir un manga. Trop bien. Ben j'espère que je le recevrai. J'ai le devoir de dire aux Français qui je suis vraiment, confie le parlementaire, en se disant surpris par l'écart qu'il perçoit entre son image médiatique et ce qu'il est réellement. Mais si certains persistent à ne pas voir en cet élu de 65 ans la carrure d'un puncheur résistant, il les invite à mieux l'observer. Je me bats, promet-il. Vous pensez qu'il gagne à la bagarre, Bruno Retailleau? Je me bats, promet-il. Je serai un combattant, un guerrier, un viking. Pardon, excusez-moi, je m'emporte. Je me bats, je suis un combattant, un guerrier pour une cause qui me dépasse, mais ce qui me donne une très grande indépendance et une détermination absolue. Il donne rendez-vous à ses soutiens le 20 juin au Parc Floral de Paris. Ce sera le premier grand meeting de lancement pour un candidat qui s'élance dans la campagne présidentielle contre vents et marées, prêt à accélérer la cadence et à sillonner le pays pour créer partout des équipes pour la France. Dans cette salle polyvalente de la Roseraie, un Toulousain encore attaché à la droite n'exclut pas de reprendre sa carte. Il n'a pas pu participer à la consultation interne, mais il est venu écouter Bruno Retailleau pour se faire une idée. À 74 ans, Gérard, oh, Gérard, 74 ans, électeur de droite du Tarn. J'adore. Gérard n'est pas du genre à se laisser bercer par les campagnes. Face à lui, quatre affiches exhibent le candidat avec une promesse. Défendre la France des honnêtes gens. Les slogans, confie-t-il, c'est peut-être bon au début, mais il faudra pas trop jouer sur cette corde-là, car on a vu où la force tranquille nous a menés. Mais la force tranquille, c'est Mitterrand. Bah, Gérard, si t'es de droite, c'est normal que t'aies pas été séduit par Mitterrand. Sarko l'avait repris? Non, Sarko, il avait... Non, 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 non. Si? Ah, attends. Le slogan de Sarko en 2012, c'était quoi? Non, c'était la France forte. C'était la France forte. Non, 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 tu m'as fait douter. C'était la France forte, Sarko, en 2012. C'était pas la force tranquille. Force tranquille, c'était Mitterrand, conseillé par Séguéla. En 2007, Sarkozy, c'était Ensemble, tout devient possible. Ouais, Ensemble, tout devient possible. Pardon, je vais jusqu'au bout de l'article. Qu'est-ce qu'il dit Gérard? Gérard ne sait pas si le visiteur du jour pourra aller jusqu'au bout de son projet. Mais s'il a une chance, c'est peut-être celle de récupérer tous les RPR partis au RN, conclut-il. Il a du nez, Gérard. Il a du nez, Gérard. Je pense qu'effectivement, le challenge pour Bruno Retailleau, c'est de parvenir à aller récupérer les électeurs de droite qui sont allés voter RN, qui ont été séduits par les sirènes de la dédiabolisation de Marine Le Pen et qui vont être orphelins suite à sa condamnation, qui n'ont pas envie de voter, qui n'ont pas envie de voter Bardella parce qu'il est trop jeune et trop bête, et qui vont lui préférer la sagesse et l'expérience d'un Bruno Retailleau qui aura su habilement récolter cet électorat-là. Je suis très dubitatif, mais je ne demande qu'à être contredit par les résultats du premier tour de l'élection présidentielle. Est-ce que Bruno Retailleau a bel et bien un espace politique ? Est-ce qu'entre le macronisme et le lepénisme, il existe vraiment une force politique qui peut émerger ? Est-ce que cette troisième voie est possible ? J'en doute. J'en doute. Les électeurs de LR, ils ne veulent pas voter Le Pen car pour eux, elle est de gauche. Alors, il y a un peu de ça. Dans la critique de Marine Le Pen du côté des Républicains, il y a une critique de la démagogie, de la facilité des propositions à l'emporte-pièce du Rassemblement National. Mais tu as aussi une critique, effectivement, sur un social-étatisme mis en avant par Marine Le Pen. Le Rassemblement National n'hésite pas à voter à l'Assemblée nationale pour des taxes, pour des impôts supplémentaires. Alors, pas des impôts sur les Français les plus fragiles, mais... disons qu'il y a quand même un culte de l'État puissant, l'État fort, qui est moyennement apprécié du côté des Républicains, de certains Républicains. Je suis aussi dubitatif. Je ne demande qu'à ce que Retailleau et Bardella se bouffent entre eux. Mais non, mais tu vois, c'est en ça que je suis dubitatif, c'est que en cas de confrontation directe entre Retailleau et Bardella, je ne suis pas sûr que ce soit Bardella qui sorte vainqueur. Il y a peut-être des électeurs tentés par Bardella qui vont préférer se rabattre sur un Bruno Retailleau qui serait vu comme plus audacieux, plus expérimenté, mieux charpenté, qui aurait plus un profil de président de la République pour des électeurs pour qui ça compte beaucoup. Bardella, il est bien plus libéral que Le Pen. Alors, il semblerait que Jordan Bardella ait effectivement des divergences de point de vue avec Marine Le Pen, qu'il ne s'exprime pas parce que, pour l'instant, et l'un et l'autre cultivent la stabilité du parti. Mais Bardella fait plus de gestes en direction des entreprises et des patrons que Marine Le Pen. Ouais, non, vraiment, je suis curieux. Je suis curieux de ce que tout ça va donner, quoi. Bardella, c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. S'il débat avec Retailleau, il va se faire plier et les potentiels électeurs sont susceptibles de se retourner. Ouais, encore une fois, je vous invite à vous méfier de cette perception de la bêtise, de la simplicité et tout. Moi, j'ai connu la campagne de 2006-2007 et à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui disaient « Ouais, mais Sarkozy, il est bête. Sarkozy, il n'a pas le niveau. Sarkozy, il n'est pas brillant. On peut faire mieux, machin. » La réalité, c'est que les électeurs de Sarkozy trouvaient qu'il avait le niveau. Point barre. Voilà, c'est tout. Que les opposants te trouvent bête, c'est pas grave. On s'en fout, c'est des opposants. De toute façon, ils vont pas voter pour toi, alors on s'en branle. Pareil pour Ségolène Royal. Ségolène Royal, les gens de droite disaient un certain nombre de choses pour certaines misogynes et pour d'autres simplement injurieuses. En la traitant de cruche, par exemple. Pour être là où il est, Bardella, il n'est pas foncièrement con. La connerie et l'intelligence, ça ne se mesure pas avec un baromètre unique. Bardella est quelqu'un de très habile politiquement. C'est un très bon apparatchik. Il a su faire son trou dans le clan Le Pen. Il a cette intelligence-là. Du reste, est-ce qu'il est intelligent pour tout et tout ? J'en sais rien. Est-ce que Bardella est capable de mener une campagne présidentielle avec proximité, hauteur de vue, ambition ? C'est un vrai challenge, hein, j'en sais rien. Il sort avec la Reine des Neiges, d'ailleurs. D'ailleurs, vous saviez qu'il était avec la Reine des Neiges? Ouais. Je me rappelle bien quand Elsa chantait Libérée, délivrée de tous ces immigrés. La deuxième Sicile, elle est au pôle Nord, ouais, exactement. Est-ce qu'il y a une Madame Retailleau d'ailleurs? Je ne sais pas. Je sais pas. C'est vrai ça, Bruno Retailleau, il est avec une princesse, lui? Bah alors, Bruno? Ah bah. Niveau princesse, hein, pas en dessous? Ah bah c'est la règle. Ah bah c'est la règle. Ah bah ouais. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Bah, et... C'est de Villiers sa princesse. Il y aura vraiment un Bourbon à l'Élysée, ça paraît tellement lunaire. Ça dépend de ce que voteront les Français. Il faut entendre Retailleau sur les propositions sociétales, c'est le retour au Moyen-Âge et la guerre civile avec les quartiers qu'il veut fermer avec l'armée. Oui, bien sûr. Bruno Retailleau, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il est à un stade de sa campagne où pour exister médiatiquement, il doit faire son trou et pour faire son trou, il doit provoquer. Il doit sortir des dingueries. Qu'il y pense vraiment ou pas, à la limite, c'est secondaire. C'est comme quand Bruno Retailleau dit, il faut mettre l'Espagne au banc des nations européennes. Ça ne veut rien dire. Pour dire un truc pareil, il faut être candidat à l'élection. Il faut pas être ministre en exercice, parce qu'en fait, ça ne veut rien dire. Y a pas de banc des nations européennes, en fait. L'Espagne est dans l'Europe, l'Espagne est souveraine, elle prend ses décisions, la régularisation des sans-papiers si elle le souhaite. Il n'y a pas de... C'est comme envoyer l'armée dans les quartiers. Envoyer l'armée dans les quartiers, mais pour faire quoi? Envoyer l'armée. On en a déjà parlé de ça, cette espèce de d'idée reçue, de facilité démagogique, de se dire l'armée, c'est la force, l'armée, c'est la puissance. Bon, bah, il faut les envoyer dans les quartiers. Mais vous voulez qu'ils fassent quoi dans les quartiers, l'armée? L'armée n'est pas une police de proximité, l'armée n'est pas une BAC, l'armée n'est pas une force de maintien de l'ordre. Ils ont des missiles qui tirent à plusieurs milliers de kilomètres. C'est ça qu'ils ont, les Allemands. Voilà, ils peuvent détruire des bases à plusieurs milliers de kilomètres. Ça, ils peuvent faire. Ça, ils savent faire. Ils sont payés pour ça, les mecs. Mais tu les envoies dans un quartier, tu lui dis qu'ils fassent quoi? C'est fou. Les gens que ça fait rêver, ils pensent que l'armée va tirer à vue. Non mais c'est ça, d'ailleurs c'est assez flippant. C'est assez flippant, y compris dans la perception de ce que c'est que l'armée, et de ce que fait l'armée, de ce qu'elle sait faire, de ce pourquoi elle est utile. D'une part, donc c'est vraiment une espèce de fantasme d'action de l'armée. Je suis sûr que les mecs, ils pensent que l'armée, c'est des phalanges. Alors tu sais, ils ont des gros boucliers avec des lances comme ça, puis ils avancent en groupe. Une espèce de perception fantasmagorique de l'armée. et ensuite sur ce qu'ils imaginent qui se passe dans les quartiers, sur à quoi ressemble un quartier, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la vie dans un quartier, etc. Qu'est-ce que vous pensez que l'armée, elle peut faire? Ces personnes, ils voient l'armée comme l'ICE aux USA, je pense. Oui, mais et là aussi, c'est intéressant parce que l'ICE aux USA, ce n'est pas une force armée. Ce n'est pas l'armée des États-Unis d'Amérique qui intervient. C'est une police spéciale, une police de l'immigration qui s'appelle l'ICE, qui sert à ça, qui est formée à ça, enfin, qui fait des trucs, qui fait des trucs d'armée de l'immigration. D'armée, ce n'est pas le bon terme, justement, de police de l'immigration. Donc, la prochaine fois que vous entendez quelqu'un dire qu'il faut envoyer l'armée dans les quartiers, répondez oui, mais seulement la marine nationale. Voilà. Démerdez-vous avec ça. J'ai que la marine. Ah bah ouais, la marine. On envoie une frégate. En plus, ils ont des gros radars, les frégates. Bah, peut-être qu'ils vont pouvoir voir des trucs. Ou alors l'armée de l'air, ouais. On envoie le Charles de Gaulle ou rien. On envoie le Charles de Gaulle. Mais ce que ça veut dire, c'est que on va probablement passer une campagne présidentielle. En fait, on se dirige vers une campagne présidentielle au cours de laquelle la droite et l'extrême droite vont être en force dans les sondages, et très probablement, en tout cas à ce stade, on aurait un second tour entre le Rassemblement national et quelqu'un issu soit du macronisme, soit de la droite, ou d'un peu des deux. Si c'est Édouard Philippe, c'est un peu des deux, si vous voulez. Ce que ça veut dire, c'est que sur un électorat de droite qu'il faut mobiliser pour accéder au second tour, on va avoir une campagne de course à l'échalote vers l'extrême droite. Je m'attends à ce que Jordan Bardella ait un discours extrêmement ferme, strict sur des thématiques historiques du lepénisme. Je m'attends à ce que Bruno Retailleau chasse ouvertement sur les terres du RN avec des thématiques similaires, insécurité, immigration, immigration, insécurité et re-immigration derrière. Pour ce qui est des candidats macronistes, ça va être bizarre, mais j'ai l'impression que Édouard Philippe et Gabriel Attal souhaitent se distancier de l'exercice du pouvoir macroniste. Tout en surfant eux aussi sur des thématiques classiques de la droite, pas d'extrême droite, mais classiques d'extrême droite, classiques de droite, pardon, excusez-moi, libéralisme, autorité, modernisation. Donc on reprend des éléments du macronisme originel et on les retambouille à la sauce et de droite et de droite. Coucou Jean, je sors de partiel, détends-moi avec des bonnes nouvelles. Bruno Retailleau va bien. Bruno Retailleau est en forme même, je crois qu'on peut le dire. Bruno Retailleau, il a la patate et il est à donf dans sa campagne. Le débat de second tour Bardella-Retailleau, ça va être une course à la surenchère. Non, parce que l'un et l'autre vont essayer de draguer des électeurs modérés. Donc ils vont se montrer présidentiels. Ils vont se montrer au-dessus de la mêlée. Les 37 candidats de gauche se préparent. Les 37 candidats de gauche sont dans les starting blocks. Pour une élection dans laquelle ils partent déjà pas gagnants collectivement, mais alors individuellement. Est-ce que tu penses que c'est l'élection la plus importante de la cinquième? C'est la cinquième élection que je suis et c'est la cinquième fois que j'entends ça. J'ai pas connu les élections d'avant, j'étais trop petit, mais je suis sûr que mes parents, ils ont connu. En 88, on leur disait, c'est maintenant ou jamais. C'est l'élection la plus importante. Celle qui va déterminer quelle sera la France en l'an 2000. Le genre de truc qu'ils disaient à l'époque. Donc pour te répondre, non. Non. Non, c'est pas l'élection la plus importante. C'est l'une des plus dangereuses parce que c'est une des élections dans lesquelles l'extrême droite est la plus à même de remporter le pouvoir, ça c'est vrai. Tu serais de droite, tu n'aurais pas fait de cagnotte Ulule. Ah bah non, si j'avais été de droite, j'aurais eu du pognon de Bolloré. Mais comme j'ai pas de pognon de Bolloré, n'hésitez pas à donner. N'hésitez pas à donner pour, pour permettre le financement de l'émission Backseat. Émission Backseat qu'on a envie de faire jusqu'à la fin de la saison, c'est-à-dire jusqu'à la fin du mois de juin. Et on a besoin de vous pour ça. Pour financer l'émission et pour collecter suffisamment d'argent. C'est quoi la vidéo?
Bonsoir Gabriel Zucman.
Bonsoir Clémence Guettet.
Bonsoir.
Bonsoir Charles Courson.
Bonsoir.
Bonsoir Lucie Castet.
Bonsoir,
bonsoir cher Edoui.
Bonsoir à toutes et tous.
Bonsoir Edoui.
Le petit rendez-vous du jeudi.
Salut les amis, un petit message pour vous parler de Backseat. Vous le voyez autour de vous, l'actualité politique, c'est le bordel en France avec l'élection présidentielle de 2027 qui continue à monter en puissance et ça ne va pas arrêter d'ici la fin de l'année. Au niveau international aussi, il se passe énormément de choses. On vit des moments historiques. La question climatique et écologique aussi qui continue. On a besoin de Backseat. Backseat est là pour vous.
Bah, tu peux pas dissocier ce qui se passe à l'échelon national de ce qui se passe à l'échelon local. Manon.
Oui, il faut de vraies ruptures et qu'on peut faire de vraies ruptures sans crier. Et
j'ai pas crié.
Donc Sacha Houlier, même si on faisait partie de la même famille politique, pourquoi je suis resté un mec de gauche et pourquoi t'es devenu un mec de droite?
Abattez la citadelle! N'écoutez jamais personne!
Backseat est là pour vous, c'est votre émission, une émission qui vous propose des analyses pour vous aider à vous y retrouver dans cette vie politique de plus en plus dense et complexe à suivre, surtout quand on n'est pas habitué. Nous, on pense que c'est pas Bolloré qui va vous aider à vous y retrouver là-dedans, on a besoin d'une émission indépendante comme Backseat.
Est-ce que vous croyez toujours dans la théorie du grand remplacement, monsieur Bertrand?
Attendez, non.
Donc j'aimerais savoir pourquoi vous n'avez pas voté contre cette loi.
Ok, vous avez une minute?
Vous avez voté pour l'interdiction d'un truc qui vous dérange absolument pas. Et dans lequel vous constatez vous-même sur le terrain que tout va bien.
Bon,
donc, non mais ok, d'accord, d'accord.
C'est pour ça que c'est le
point qu'il m'a eu. Hein.
Backseat, ça sert aussi à se marrer, à passer des moments sympas, des moments complices. On est là pour ça, on est là pour vous.
Vous êtes d'accord, hein, 4 chroniqueurs, c'est le bon nombre.
Oui, non, je suis pas là. C'est ingérable comme émission.
Mais non.
Bah, je peux plus, là j'y arrive.
On a besoin de vous. On fait pour financer Backseat des biforts avec des partenaires qui nous accompagnent. C'est de plus en plus difficile de trouver des partenaires pour financer Backseat. Bref, on a besoin de vous pour financer Backseat, pour participer au financement de cette émission. Si vous pensez qu'elle a sa place dans le paysage médiatique, sur Internet, si vous pensez comme nous que Twitch mérite une belle émission d'actualité politique pour suivre toutes ces avancées, une émission indépendante à votre service, alors on a besoin de vous. Soutenez Backseat, participez à son financement.
Ouais, donnez de l'argent, ouais. Donner de l'argent. Donc vous avez la cagnotte qui est là, tout est expliqué si vous voulez lire. Il y a une FAQ à la fin qui vous explique, qui répond à toutes vos questions si vous avez des questions. Et vous avez des contreparties, n'hésitez pas à acheter votre t-shirt ou votre affiche. C'est vous qui choisissez. Et voilà. Et grâce à vous, on va pouvoir financer l'émission et continuer à faire des éditions de Backseat jusqu'à la fin de cette saison. Et on peut acheter le desk. Oui, vous pouvez acheter le desk. Le desk de Backseat, vous pouvez l'acheter en échange d'un financement de 15 500 euros, qui est le prix d'une émission. Si vous financez une émission de Backseat, vous repartez avec le desk. N'hésitez pas à y réfléchir. Hein. Et oui, je suis d'accord avec vous, l'interview de Sophie Prima. L'interview de Sophie Prima dans Backseat, elle était très bizarre. Ben non, elle était pas bizarre, mais c'est que je sais plus de quoi on parlait. Je sais plus de quoi on parlait. On lui pose une question et elle-même, elle amène sur le tapis la loi sur le port du voile pour les accompagnantes de sortie scolaire. Mais on lui parlait pas de ça, nous. Hein. On lui parlait pas de ça, mais c'est elle qui a pris ça comme exemple, qui a dit, voyez, par exemple, la loi sur le voile pour les accompagnantes scolaires. Moi, j'en ai rencontré dans ma circonscription des accompagnantes. Elles étaient formidables. Elles étaient très bien, très intégrées à la République. Pardon, j'ai remonté le son. Et elles, voilà, elles étaient très intégrées et ça se passait bien, mais au moment du vote, j'ai eu du mal et tout. Et c'est pour ça que je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais attendez, vous avez voté... je comprends pas. Vous avez voté pour l'interdiction, oui. Mais du coup, vous avez voté pour un truc que vous constatez sur le terrain que ça va. Que tout va bien. Et ça vous pose aucun problème, le voile, d'ailleurs, parce qu'elle a dit elle-même, moi, vous savez, le voile ne me pose aucun problème. J'ai dit, bah alors. Et c'était trop bizarre. Je sais pas comment elle a fait pour se mettre toute seule dans cette situation. Bon. Nous, on l'a pas particulièrement cuisiné, en plus. Hein. Alors, vraiment, on parlait pas de ça. C'était pas le sujet. Sortez les rames. Ouais, ouais, non, elle a même pas cherché à se justifier et tout. Elle était juste, elle a dit, ah ouais, ouais, c'est vrai que c'était bizarre, ouais. Bon, d'accord. Quid de la prochaine présidentielle ou législative ? Qui de la prochaine présidentielle ou législative aura le plus gros poids politique ? Ce que je vous ai toujours dit, c'est qu'une élection présidentielle, c'est une élection soumise à condition. Offre soumise à condition. Tous les programmes politiques que vous allez lire dans cette présidentielle, il y a un gros astérisque à côté. Offre soumise à condition. Tout ça ne vaut que si le président élu a une majorité de députés à l'Assemblée nationale. Dans tous les autres cas de figure, on va essayer de faire ce qu'on peut. Mais il va falloir négocier, il va falloir trouver des compromis, il va falloir amender. On va aller dans la direction d'eux, mais on va pas pouvoir faire ce qu'on a promis, etc. Donc, une élection présidentielle est soumise à validation. En gros, c'est un peu un système à deux étages. On vote, on choisit un président de la République, puis on décide si on valide le choix qu'on a fait ou pas. Si on le valide, on lui offre une majorité absolue de députés pour appliquer son programme, ou au moins essayer. Et sinon, ça veut dire qu'on aura élu un président de la République qui n'aura pas les coudées franches pour appliquer son programme. Voire même, on peut se retrouver en situation de cohabitation. On peut se retrouver en situation de cohabitation. Ce serait extrêmement surprenant. Ça marquerait les limites du quinquennat. Mais les Français élirait un président en mai, puis changerait d'avis en juin. En gros, ce serait ça. Oui, mais non. Les Français ont décidé de... C'est compliqué. On l'a déjà vu. Non, on n'a pas vu de cohabitation. On n'a pas vu de cohabitation, mais on a vu une absence de majorité absolue. C'était 2022. Lorsqu'Emmanuel Macron est réélu président de la République, les Français ont décidé de ne pas lui confier de majorité absolue, mais de lui confier une majorité relative qui était beaucoup plus confortable que ce qui s'est passé après en 2024. Ça restera une blague. Mais voilà. Est-ce que tu penses qu'il y a une probabilité de second tour Le Pen-Mélenchon ? Alors Le Pen, je pense qu'elle ne sera pas candidate parce que la justice va la déclarer inéligible. Donc ce sera Bardella. Un second tour Bardella-Mélenchon, oui c'est possible, en cas de division des voix entre les deux. C'est-à-dire qu'en gros, Jean-Luc Mélenchon il a son espace politique, Marine Le Pen elle a son espace politique, et entre les deux, tu as beaucoup de gens. Mais si ces beaucoup de gens sont divisés entre plein de candidats, à part à peu près égale, et bah tu te retrouves avec un second tour par Le Pen-Mélenchon. C'est possible, ouais. Est-ce qu'on peut imaginer une élection de Bardella, puis lors des législatives, un véritable mouvement républicain avec une alliance du centre droit à la gauche non LFI pour proposer une alliance anti-RN ? Oui, c'est possible. Enfin, j'espère qu'il y aura une alliance plus large que ça, y compris avec la France Insoumise. Bardella à l'Élysée, il est hors de question qu'il ait Matignon, donc toute la gauche élargie jusqu'à une partie des macronistes s'unit pour proposer un front anti-Bardella et qui peut potentiellement gagner, si ce n'est pas une majorité absolue, au moins une majorité relative. Mais sinon, imaginez, parce que je reprends ton idée d'alliance de tous les gens non mélenchonistes, imaginez qu'on ait une Assemblée nationale dans laquelle Bardella a un tiers des députés, Mélenchon a un tiers des députés, et entre les deux, c'est une force de coalition entre la gauche non mélenchoniste et les macronistes. Question. Est-ce que les mélenchonistes et les non-mélenchonistes peuvent faire une coalition gouvernementale ? Parce qu'ensemble, ils ont deux tiers des députés, ils ont la majorité absolue. S'ils font une coalition, ils ont de quoi gouverner la France. Mélenchon n'aurait pas un tiers vu que la gauche pèse déjà un tiers. Oui. Dis donc, le scénario que je viens de vous présenter implique une progression fulgurante de la gauche. Peut-être un peu trop fulgurante. Parce qu'aujourd'hui, le total gauche, c'est un tiers. Je vois mal des Insoumis et des Horizons dans le même gouvernement. Oui, mais face à l'extrême droite. Quand c'est un danger mortel pour la France. J'en sais rien, je sais pas. Quel budget ? Ah ! Oui, c'est vrai. Oui, oui, effectivement, t'as raison. On rajoute au scénario une donnée. C'est un choc pétrolier massif et une crise économique majeure. Explosion de la dette. La France est placée sous la protection du FMI. Et il faut sortir un budget dans les 3 mois qui viennent. Est-ce qu'ils auraient vraiment besoin d'être en alliance ? Est-ce que laisser l'extrême droite gouverner sans majorité et en faisant obstruction systématique, c'est pas une meilleure stratégie ? Plutôt que de faire obstruction à des projets de loi déposés par l'extrême droite, autant toi-même être au pouvoir et déposer tes propres projets de loi. L'obstruction, c'est pas l'obstruction qui gouverne. Mais bon. Le scénario que je viens de vous décrire, c'est-à-dire un scénario dans lequel deux tiers de l'Assemblée est de gauche, ne semble pas à date être un scénario réaliste. Ouais. Jean, t'as pas ton dentiste ? Si, si, mon dentiste, c'est plus tard. Je pars à 16h. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, je gère. Merci les copains. Déjà, si on peut réussir à avoir un candidat de gauche au second tour, à ce stade, ça relève du miracle. Ouais. Ça fait 10 ans que la gauche n'est pas au second tour de la présidentielle, ouais. Ça lui ferait du bien d'y retourner, ouais. Déjà au second tour. Après, la victoire, c'est un autre projet. Bah si, il y a Macron. Oui, effectivement. Du point de vue de l'extrême droite, nous sommes dirigés par la gauche depuis 15 ans. Oui. Question de positionnement relatif, toujours pareil. Mais si, Macron était de gauche en 2017. Macron était de gauche, mais pas seulement. Il était plus que de gauche. Enfin, en tout cas, il y avait un truc en plus qu'il a rajouté. D'après Zemmour, tout le monde était de gauche tout le temps. Oui. N'oubliez pas que d'après Zemmour, Marine Le Pen est de gauche. La gauche et la droite, c'est la guerre et la paix. Le son est très bas. Comment ça, le son est très bas? C'est toi qui es très bas, wesh. Je peux pas monter plus, hein. Ça module dans le jaune. C'est un peu vrai pour le son. Quoi? Bah c'est pas grave, attendez, bougez pas. On est à combien? Voilà, normalement, ça devrait être un peu plus. J'ai augmenté le gain. C'est mieux ? Voilà, bon bah si c'est mieux, c'est que c'est mieux. Est-ce qu'il y aura une friction entre Bardella et Marine s'il n'y a pas d'éligibilité de Marine ? Moi, j'ai entendu des analyses de gens qui disent que les relations entre les équipes de Bardella et de Marine Le Pen sont glaciales, qu'en interne, c'est très compliqué la cohabitation entre les deux figures, les deux potentiels candidats à l'élection. Il est possible que ça pète d'une manière ou d'une autre. Soit Marine Le Pen n'est pas inéligible, auquel cas elle est candidate. Ce serait une divine surprise pour elle et ce serait une douche froide pour Bardella. Est-ce que Bardella resterait le loyal soutien ou est-ce qu'il s'est senti pousser des ailes et il aurait envie de tenter une aventure en solo quelque part? C'est une première question. Et à l'inverse, si Jordan Bardella est candidat, est-ce que Marine Le Pen va jouer le jeu? Est-ce qu'elle va le soutenir? Est-ce qu'elle va le défendre? Est-ce que Bardella va faire des propositions qui vont déplaire à Marine Le Pen? Merci Pinky, merci. Est-ce que Bardella va faire des propositions qui vont déplaire à Marine Le Pen, notamment en matière économique par exemple? Voilà, c'est une vraie question. C'est comment cohabiter à deux têtes au sein d'un même clan? Si Le Pen est éligible, possible que Bardella fasse scission, ça diviserait l'extrême droite. Mais ça donne un Le Pen contre Bardella au second tour. C'est-à-dire que t'as une candidature de Bardella plus une candidature de Le Pen, mais l'extrême droite est tellement forte dans ce pays qu'ils arrivent à se qualifier tous les deux au second tour. Et nous, on est spectateurs de ça. Toi, t'es là, tu fais « Ah ouais, ah, très bien ». Je sors plus de mon lit dans ce cas.
Oui, mais tu restes sur mon stream. Pas grave, tu peux rester. T'inquiète. Ouais, non, ouais. Les 12 électeurs de gauche restants seront en mode well shit. Oui, c'est ça. Non, ça va être bien. Bah, peut-être que la gauche va s'unir à ce moment-là. Peut-être qu'une nouvelle force va émerger à gauche qui va réussir à faire le lien entre tous les électeurs, toutes les sensibilités, toutes les chapelles. Je vois pas Bardella faire campagne contre Le Pen. Je vois pas non plus Bardella faire campagne contre Le Pen, mais je vois bien Bardella en interne bordéliser la campagne. Soit en sortant des petites phrases, soit avec ses proches. En tout cas, le clan pourrait se diviser en deux, quoi. Les députés proches de Le Pen, les députés proches de Bardella. Et si c'est pas les députés, c'est les lieutenants, on va dire les lieutenants, tu vois, les cadres. Les cadres du mouvement qui se scindraient en deux, qui se feraient la guerre, seraient le bordel. Ils se mettraient sur la tronche en permanence. Marine Le Pen n'arriverait pas à avoir assez d'autorité. Je sais pas, j'essaye d'imaginer un scénario de scission du clan Le Pen entre un clan Bardella et un clan Le Pen, je sais pas. Je vous rappelle que c'est déjà arrivé dans l'histoire du Front National, hein, une scission comme ça avec Bruno Maigret. Bruno Maigret qui s'était barré dans les années 90, qui avait emmené avec lui toute une partie du clan, notamment des cadres. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de cadres dirigeants du mouvement s'étaient cassés pour créer un nouveau parti politique d'extrême droite qui s'appelait le Mouvement National Républicain, le MNR. C'était Bruno Maigret qui était le candidat. Et ça n'a pas marché parce que les électeurs et les adhérents sont restés fidèles à Le Pen. Ils sont restés avec le vieux Jean-Marie. Et ça, ce qui a définitivement éteint le MNR, ça a été la qualification au second tour en 2002, où clairement Maigret était inexistant dans cette campagne. Et c'est Jean-Marie Le Pen qui a eu la divine surprise de se voir qualifié au second tour. Selon toi, risque-t-on de dépasser le record du nombre de candidats au premier tour pour la présidentielle de 2027 ? Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Nous sommes encore à un an de l'élection. Et à un an de l'élection, c'est normal qu'il y ait beaucoup d'ambitions, de candidatures, de livres, de gens qui sortent du bois pour prendre la parole et à qui on prête potentiellement des ambitions. Éventuellement, ils pourraient faire une candidature, on ne sait pas, machin. C'est normal. C'est normal. C'est toujours comme ça un an avant une présidentielle. À partir de maintenant et jusqu'à Noël, on va écrémer petit à petit les candidatures. Il y a des candidatures qui vont se retirer, il y a des candidatures qui vont fusionner. Il va y avoir des écrémages organisés, ce qu'on appelle des primaires. Il y a plusieurs candidats, on en choisit un parmi les plusieurs, et hop, ça fait moins de candidatures d'un seul coup. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et ensuite, à partir du mois de février, je vous rappelle qu'il y a les 500 signatures, les 500 parrainages. Et ça, c'est pas donné à tout le monde d'avoir 500 parrainages. Pour avoir 500 parrainages, il faut une bonne surface médiatique, il faut des militants, alors il faut soit l'un, soit l'autre, soit les deux, des militants sur le terrain, ou alors des élus locaux, il faut être le candidat investi par un parti qui a beaucoup d'élus locaux, etc. Ça aussi, les 500 signatures, c'est une barrière, ça tombe bien, c'est à ça que ça sert, hein, c'est pour ça qu'on l'a inventé, c'est une barrière. Et à la fin des fins, on aura, je pense, 12, 14 candidats. Grosso modo, on aura une présidentielle classique. On aura une présidentielle relativement classique. Est-ce que tu crois en une victoire de la gauche sans union ? Le problème de la gauche, c'est qu'en plus d'être divisée, elle est faible. La gauche, depuis 10 ans, la gauche est faible. Le total gauche, aux élections, il dépasse difficilement 35%.
Donc en fait, la gauche divisée, c'est pas très grave quand la gauche représente 45-50% des électeurs. Tu peux te le permettre. C'est pas grave d'avoir deux candidats, trois candidats. Bon, c'est pas... Voilà. Quand la gauche représente 30-35% max des électeurs, compliqué d'être divisé. Face à une extrême droite qui est quasiment unie et qui est déjà à 35% des intentions de vote. Ce ne sont que des intentions de vote. À un an du scrutin, évidemment, ça va baisser, c'est normal. Mais la puissance de l'extrême droite écrase largement la gauche toute réunie, quoi. Euh... 35% pour eux et plus de 10% pour une droite qui tend vers l'extrême droite. Oui, pour l'extrême droite. Bah, sur les intentions de vote, alors il faut regarder, mais tu dois avoir 35%, 35-37% pour Bardella. Tu dois avoir un Éric Zemmour qui doit stagner à 5%, je pense, un truc comme ça, un peu moins peut-être. Donc, t'as pas loin de 40% des électeurs qui ont l'intention de voter à l'extrême droite. Et ensuite, tous les autres électeurs restants, c'est-à-dire 60%, sont à partager entre le camp macroniste, dans sa diversité, et la gauche. Aux européennes, l'extrême droite, c'est 42%. Oui, oui, aux européennes, l'extrême droite a surperformé. Aux européennes, l'extrême droite, c'est 42%. La gauche, c'est 25%, je crois. Non, c'est plus que ça. 30. Le macronisme n'est pas mort. Bah, ça, c'est une bonne question. C'est-à-dire, moi, en fait, je me méfie de la facilité d'analyse qui consisterait à dire que le macronisme est finissant. Sous-entendu que les électeurs macronistes vont quitter le macronisme et rentrer sagement au bercail. Pour certains, ils vont retourner vers le PS, pour d'autres, ils vont retourner vers les Républicains, et le macronisme va redevenir une UDF ou un modem picro-colin. Je me méfie de cette analyse-là parce que rien ne dit que les électeurs macronistes ne vont pas rester macronistes. Peut-être que les électeurs macronistes vont rester dans le giron de ce qu'on appelle le macronisme, c'est-à-dire d'un centre-centre-droit assez élargi, autour d'une candidature qui peut être celle d'Édouard Philippe, autour de potentiellement Gabriel Attal. Bon. Peut-être que le macronisme va survivre à Emmanuel Macron. Tout comme l'UDF a survécu à Giscard. C'est pour ça que c'est facile de dire ça un an avant l'élection, alors que vous savez, comme moi, qu'il va se passer beaucoup de choses, et qu'en plus, vous allez vous abonner à ma chaîne Twitch, parce qu'on va les vivre ensemble, ces choses incroyables. Je crois plus en la possibilité d'une forme d'alliance de gouvernement, de coalition entre les macronistes et la gauche, qu'en une disparition du macronisme qui, en plus, bénéficierait magiquement à la gauche, quoi. Je crois pas trop. J'en sais rien. Les macronistes, ils ont le problème d'avoir une faible implantation locale. Oui, mais je te rappelle qu'Emmanuel Macron nous a démontré que ce n'était pas nécessaire. Voilà, une élection présidentielle, pour la gagner, vous n'avez plus besoin, comme ça a pu être le cas par le passé, d'être soutenu par un gros parti politique avec plein de militants et plein d'implantations locales des maires, des élus locaux, des... Non. Ça a été vrai pendant très longtemps. C'est pas pour rien qu'il y avait l'UMP, le Parti Socialiste, le RPR, l'UDF, c'était des gros partis. Le PCF, évidemment, c'était des gros partis. On parlait d'ailleurs de partis de masse après la Seconde Guerre mondiale.
Il y a des partis qui avaient des bataillons de militants, qui avaient plein d'élus, etc., qui avaient des fiefs, qui avaient vraiment des territoires dans lesquels ils étaient très puissants, machin et tout. Bon. Et ces partis-là présentaient des candidats à la présidentielle et ces candidats-là se battaient pour le second tour et pour gagner, etc. Ça a été vrai pendant des décennies. Début de ce 21e siècle, on est dans un moment d'affaissement des partis politiques. Les partis politiques sont mal aimés par les Français. L'opinion publique n'aime pas les partis politiques, à tel point qu'il devient presque un avantage électoral que de ne pas être issu d'un parti. C'est exactement ce qu'a réussi à faire Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, en 2016, il a présenté aux Français sa candidature en leur disant « Je ne suis issu d'aucun appareil, je ne suis pas un apparatchik, je ne suis même pas un élu, jamais été élu de ma vie. » Et en fait, il a présenté ça comme un avantage, en disant « Je suis de la société civile. Je suis comme vous, les gars. Je ne suis pas un énième représentant du PS ou un énième représentant... » Non, non, non. Et ça a plu à tout un électorat. Il y a plein de gens qui ont été séduits par cette offre nouvelle, rafraîchissante, d'un renouveau politique autour d'un truc différent, machin, etc. Alors après, on y croit, on n'y croit pas. C'est pas le sujet. Enfin, évidemment, on n'adhère pas. Tout ce que je vous dis, c'est qu'il y a plein de gens qui y ont adhéré. Ça, c'est vrai. Donc, ne pas avoir d'implantation locale, c'est pas grave. Ça t'empêche pas de gagner une présidentielle. Je vous rappelle que Éric Zemmour, il a fait 7%. Il a très exactement aucune implantation locale. Vraiment, lui, c'est zéro. Hein. Il a essayé lui-même d'être élu. Que de chi. Lui-même n'a pas été élu député. Hein. Mais il a quand même fait 7%. Loin devant les Républicains et le PS, qui sont les deux partis les mieux implantés localement. Comme quoi. Moi, sans grande conviction, j'ai voté pour lui en 2017. Je croyais à un renouveau des institutions. J'ai été bien déçu de ça. Rien n'a changé alors que la 5e prend la poussière. C'est vrai qu'Emmanuel Macron... Bon, il faudra qu'on prenne le temps de faire le bilan. Il faudra qu'on prenne le temps de faire le bilan. Mais c'est vrai qu'Emmanuel Macron ne nous a pas rafraîchis par sa pratique du pouvoir. Surtout vers la fin. Il a tenté de réformer la Constitution. Il a tenté en 2018. Il a été empêché par l'affaire Benalla et depuis, il n'a jamais trouvé le moment de revenir avec son projet sur la table. Donc, bof. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Il y a eu des innovations. Je pense notamment aux conventions citoyennes. J'apporte au crédit d'Emmanuel Macron d'avoir inventé une forme d'implication des citoyens dans un processus délibératif, etc., avec toutes les limites de l'exercice, mais disons que c'est encourageant. C'est encourageant comme forme. Je souhaite, à titre personnel, que les conventions citoyennes se systématisent un peu dans notre vie politique. Que ça devienne plus régulier et qu'on invente des formes de transmission du travail vers le Parlement. Tout ça reste à imaginer, évidemment. Pour l'instant, ça a été très balbutiant et assez décevant pour les promoteurs du truc. Encore faut-il respecter les conclusions. Mais les conclusions ont été respectées pour la plupart d'entre elles, dans la loi climat-résilience. J'ai 30 ans, j'ai jamais vécu un référendum. La démocratie, c'est une fois tous les 5 ans. Ouais, après, moi, je fais partie de ceux qui considèrent que les référendums, c'est vraiment pas la panacée de la démocratie. Poser une question à laquelle tu réponds par oui ou par non, je pense qu'on peut faire mieux. Sans compter le caractère césariste du truc. Merci Nota Bene pour ton raid, merci Ben. On est en train de parler du bilan institutionnel d'Emmanuel Macron, de ce qu'il aura laissé comme trace dans la pratique du pouvoir. Je
je suis aligné avec ça, c'est tellement compliqué le référendum. Non, non, mais le référendum, c'est marrant parce que pour les gens de gauche, le référendum, c'est de la merde. On n'aime pas le référendum à gauche. On ne veut pas de référendum. Ça a toujours été très critiqué à gauche, le référendum. Jusqu'à 2005, où c'est devenu la panacée. Et moi, je suis toujours surpris d'entendre des gens qui ont le cœur à gauche vendre le référendum comme un truc... c'est vraiment, c'est la démocratie, quoi. D'accord. C'est intéressant, ça a changé. Le référendum, c'est populiste. C'est démagogue, en tout cas. Enfin, c'est démagogue, c'est plébiscitaire, c'est césariste, c'est un vrai truc de droite. Hein. Le référendum, c'est vraiment c'est le lien direct entre le chef et le peuple. Et je pose une question au peuple et il me répond. Super. Paye ta démocratie, paye ton pouvoir du peuple. Mais bon, toujours est-il que je constate qu'aujourd'hui, à gauche, le référendum a repris des couleurs et que c'est un truc vraiment mis en avant, qui est souhaité ardemment, parfois avec des formes renouvelées, par exemple le référendum d'initiative citoyenne, qui du coup change un petit peu la dynamique, notamment la dynamique plébiscitaire, puisque ce ne serait plus le chef de l'État qui propose le référendum, ce serait le peuple lui-même qui, via un processus qui reste encore à déterminer, déclencherait lui-même un processus référendaire. Pourquoi pas ? Le référendum d'initiative partagée, que moi je trouve super intéressant, le problème c'est que c'est un outil qu'il est impossible de déclencher compte tenu des freins qui sont mis, et notamment le nombre de signatures nécessaires sur la pétition. Le référendum, c'est la version la plus pauvre d'expression populaire, encore pire que le vote. Oui, c'est ça, c'est comme le vote. C'est comme le vote, c'est-à-dire que c'est un outil qui, à lui tout seul, ne peut en aucun cas représenter la vitalité démocratique, la pluralité des opinions, enfin, je sais pas, la démocratie, c'est tellement plus que ça. C'est Edoui Plenel qui a écrit un livre, il faut que je le retrouve, je sais plus où je l'ai mis. Il m'a envoyé son livre, Edoui Plenel a écrit un livre qui s'appelle « La démocratie n'est pas l'élection ». Je vous invite à le lire, c'est un petit livre qui coûte pas cher. Et je suis complètement d'accord avec Edoui. La démocratie, c'est pas juste le jeu électoral. C'est pas juste choisir son président de la République tous les 5 ans et son député un mois plus tard. Ça, c'est un petit morceau de la démocratie. La démocratie, c'est vivant. La démocratie, c'est des institutions nombreuses, plurielles, indépendantes les unes des autres, avec une séparation des pouvoirs. La démocratie, c'est une justice qui a les moyens de travailler. La démocratie, c'est une liberté de la presse, une liberté d'expression qui est garantie. La démocratie, c'est... le choix de son propre parcours de vie, l'émancipation des individus, la liberté des individus, la protection des individus, c'est tout ça, la démocratie. Edoui Plenel, le chroniqueur de Backseat. Oui, Edoui Plenel, le chroniqueur, pardon, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un chroniqueur de Backseat qui s'appelle Edoui Plenel. Dans mon imaginaire, le référendum, ça ouvre un débat et on discute sérieusement d'un sujet avec les pour et les contre pendant une période, mais je fantasme, je pense. Tu as raison pour une partie, le référendum, le processus, notamment de le référendum pour la Constitution européenne en 2005, a été l'occasion d'une discussion sur l'Europe, le sens de l'Europe, la structure de l'Europe, etc. Il y a eu de ça. Mais le référendum, tu serais déçu. Tu serais déçu de voir à quel point les référendums généralement, se résume à la question de est-ce qu'on est pour ou contre le président de la République. C'est qu'en fait, les Français répondent pas à la question qui est posée. Ils répondent à la question qui est incidemment posée, qui les intéresse un peu plus. C'est est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête avec le président, avec le pouvoir, avec le gouvernement, avec la majorité, etc. Bon, pourquoi pas ? Les Français ont le droit de voter comme ils le veulent. Mais ne faisons pas l'erreur d'avoir une vision idyllique et béate d'un référendum où on s'assoit tous autour de la table et on se parle. C'est décevant. C'est, c'est décevant le référendum. Bon les enfants, je vais devoir vous laisser. Je vais devoir vous laisser parce qu'un professionnel de santé va me triturer les dents. Je suis scandalisé. Je suis scandalisé qu'on soit obligé d'en passer par là. Mais apparemment, c'est obligatoire. Alors voilà, alors voilà. Alors comme quoi, quand on n'y va pas, on a mal. Ah bah voilà, ah bah, ah bah, c'est, ah bah super. Vous voyez, on est forcé. On nous tord le bras pour nous forcer à payer. C'est encore une invention du capitalisme. Hein. C'est terrible, ce truc-là. Et bah voilà. Bon, et bah je vais être obligé de me soumettre au système qui a voulu que je me soumette. Vous aurez noté néanmoins mon cri d'indépendance et d'autonomie. Merci à vous d'avoir été là. Y a pire, il y a le proctologue. Pas encore eu. Non, ouais, ouais, bon, bref. Je vais me faire chicoter. Allez, des bisous, hein, des bisous les copains. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain, 13h, pour la séance des questions d'actualité au gouvernement. Amusez-vous bien, profitez bien, continuez à réfléchir, on en discute.